Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, encore une magnifique émission qui s'annonce. Et oui, pourquoi magnifique émission? Parce qu'il y a un match ce soir, France-Chili. Oui, la revanche, on doit une revanche. Les Français nous doivent une revanche par rapport au match de samedi soir. Et on va forcément parler de plein de thèmes autour de l'équipe de France dans cette émission, comme d'habitude, avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis?
À bloc,
bon, bien. On est bien. On est avec l'ancien grand joueur, capitaine des Verts, il est là. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut les artistes, bonjour.
Ça va, Jean-Mi? Salut la légende.
Tout va bien.
Bon, on est avec Tony Virel. Salut Tony.
Ah, il est où Tony?
Il est
perdu.
Il est dans le trou.
Tony s'est fait arrêter ou pas? Il s'est fait arrêter.
Non, arrêtez vos blagues. Tony n'est pas au trou, Tony. Il ne s'est pas fait arrêter. Arrêtez tous les deux. C'est infernal quand même.
Tony
va revenir dans quelques secondes. Il va être libéré.
Si toi aussi, tu vas
pas Tony Rock'n'Roll, tu es là.
Sera avec nous dans quelques secondes. Ce soir, messieurs, Roten sans flamme autour donc de France-Chili. Le match pour se racheter, notamment pour les leaders défaillants. Certains l'ont admis face à l'Allemagne. Parmi eux, Kylian Mbappé, le capitaine, va être attendu. Mais finalement, est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à ce brassard de capitaine en sélection? Ceux qui attendent une autre attitude de Mbappé sont-ils dans l'erreur? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Est-ce que Mbappé capitaine, ça vous plaît? L'autre événement de la soirée, c'est le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome. Alors les accusés du soir à 18h30, ce sont ceux qui fantasment cette saison dernière d'Alexis Sanchez à Marseille. On va remettre les choses en place dans Faites Entrer l'accusé, donc 18h30. Le Casar enchaîné sera là à 18h45 avec sa chanson autour d'Antoine Griezmann. Ne ratez pas ça. Et puis donc le coffre RMC est de retour. Événement exceptionnel donc, puisqu'on vous offre jusqu'à 50 000 euros sur RMC. C'est une somme énorme que peu de radios peuvent vous offrir. Donc soyez bien attentifs.
Aucune.
Le moment de l'inscription, c'est quand il y a ce signal sonore.
Et là ça tombe, et là ça tombe.
J'insiste, hein, mais quand il peut tomber vraiment à n'importe quel moment.
Et ouais.
Pendant un sommaire de Jérôme, pendant une intervention de Jean-Michel. Un moment où Tony ne répond pas. N'importe quel moment, dès que ça tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre 732-16, là vous serez tiré au sort. Vous gagnerez d'office 2 500 euros.
Wow.
Et vous aurez le choix de les remettre en jeu pour peut-être gagner 50 000. Allez-y, coffre 732-16 dès que le signal sonore tombe. On aura d'autres cadeaux aussi dans le quiz, bien sûr, hein, tout à l'heure. Jérôme est en route pour un grand chelem. Ah, et puis notre feuilleton au MPSG, on sera avec Fabrice Fiorez tout à l'heure. Il a fait Paris, Marseille, ça avait été houleux
le moment Fio, de départ. La Fio, il vient.
La Fio?
Ouais.
Comme Fio. Le Fiorentina. Il est très rare dans les médias. Hein, puisque,
très très rare.
Jérôme, donc, il voulait parler avec toi. Il a été convaincu donc, de venir dans Roten sans flamme tout à l'heure,
bien
19h30.
Ouais, on a joué ensemble, pas longtemps, parce qu'il nous a fait faux bon.
Ah, vous avez joué quand même ensemble?
Ben oui, quand j'ai
quelques
signé à Paris,
semaines,
il était là, il était censé jouer à droite.
Et il est parti,
et fin, il août. Est parti fin août.
C'est ça. Ouais. Et oui, toi à gauche, lui à droite, ça a dû être magnifique. Et à l'arrivée, il se fait découper par Sylvain Armand en novembre.
Ah oui, exact.
Bon, on en reparlera avec lui tout à l'heure. Mais tout de suite, on va vous faire une leçon sur les sifflets.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des sifflets en bois.
Quand je vois des sifflets, c'est une insulte au football.
Très pratique pour se faire repérer.
C'est dommage de venir au stade pour siffler. Moi, ça me gonfle, on va dire.
Ça fait toujours mal. Hein.
Être simple, ça fonctionne.
Bah, sifflez-le. Je dis pas qu'il faut être violent, mais sifflez-le quand il sera sur le terrain.
Mais pourquoi est-il aussi méchant?
Et donc ça, c'est la base, voilà, du sifflet.
Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent.
Alors, ce soir, 21h en Chili, avec donc Mbappé, capitaine, de nouveau. On sait qu'il vit ces derniers mois au PSG. D'ailleurs, ce week-end, il y a Marseille-PSG. Et donc, l'accueil devrait être hostile ce soir au Vélodrome. Pour un Parisien, c'est souvent le cas. Mbappé est prêt et il ne s'attend pas à un traitement de faveur.
J'aurais pas la prétention de demander ça. Je vais juste me concentrer pour jouer. Peu importe l'accueil qui me sera réservé, je vais donner le meilleur de moi-même, comme j'ai dit dans la question d'avant, pour amener une réaction. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche, je suis joueur du PSG. Donc si je suis sifflé, c'est la vie. Je prendrai pas ça personnellement et ça changera pas ma manière de jouer. Mais si je suis pas sifflé, je serai agréablement surpris. Comme quoi, des fois dans la vie, on peut avoir des bonnes surprises.
Mais Mbappé dit bien, je comprendrai ces sifflets. Alors, question question est simple. Est-ce que des sifflets contre Mbappé, la rivalité PSG-OM le soir d'un match de l'équipe de France, est-ce que ça fait partie du foot selon vous? Appelez-nous au 32-16, vos avis sont importants. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Ça fait partie du foot, t'as raison, Jean-Louis. Le problème, c'est que là, on parle d'un foot de sélection et ça fait aussi partie du football, de l'histoire de la sélection en province et dans certains endroits comme à Marseille. À Paris, l'habitude fait que tous les matchs sont à Paris en général, donc tu passes à autre chose et cette rivalité, elle n'existe pas entre Paris Saint-Germain et Marseille, ou beaucoup moins lors des matchs de sélection sur Paris, mais en province et surtout à Marseille et dans le sud, c'est souvent le cas. Moi, je trouve ça totalement... alors, je ne veux pas dire scandaleux parce que je l'ai vécu et c'est pas parce que j'ai eu du mal à l'accepter avec le maillot de l'équipe de France de me faire siffler à Montpellier, par exemple, hein, qui était pas loin de Marseille. Il y avait beaucoup de supporters marseillais à l'époque. Mais
tu t'y attendais pas?
Non.
Toi qui es quand même baigné dans la rivalité PSG-OM et tout.
Tu t'y attends. Mais là, on parle du maillot de l'équipe de France, quoi. On parle de est-ce que dans d'autres sélections, dans d'autres pays, ça se passe comme ça? Alors, je connais pas tout les rivalités des clubs et tout ça, mais par exemple ceux qui sont très disant qui s'identifient, qui sont très patriotes, c'est les Sud-Américains en général, le Chili qu'on va jouer ce soir, le Brésil, l'Argentine, toutes les équipes sud-américaines, elles sont fières, elles ont cette fierté de porter le maillot, et même les supporters, les gens du pays sont fiers de voir leur sélection. Je suis sûr que ça arrive pas ailleurs. Nous, ça arrive en France parce que déjà on a toujours ce problème-là de patriotisme. On souffre de ça, mais ça, c'est l'histoire de la France qui est comme ça. Donc, un peu moins de fierté chez certains de porter le maillot de l'équipe de France que tu peux l'avoir dans toutes les sélections sud-américaines, par exemple, ou même en Italie, pour parler de la frontière française. Et en fait, moi, où je te dis que j'ai du mal à l'accepter, c'est que pourquoi tu viens voir un match ce soir? Tu viens supporter l'équipe de France. D'accord? Donc, si tu siffles qu'il y a Mbappé, tu siffles Kolo Muani, tu siffles Lucas Hernandez, tu siffles Zahir Emery, tu siffles Dembélé. Mais en fait, ils vont passer leur temps à siffler. Et donc, tu vas jouer contre ta sélection, contre ton pays. Tu vas pousser l'équipe du Chili à performer parce que tu vas jouer dans un climat hostile. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que à l'arrivée, que ça soit à Marseille, à Paris ou ailleurs, Lyon et Saint-Etienne, la rivalité. Tu crois que quand on est gagnant de la Coupe du Monde en 2018, moi j'ai vu des images à Marseille et on a été gagnant de la Coupe du Monde en 2018, et surtout en finale, aussi grâce à Kylian Mbappé, qui était parisien. D'accord. Pour autant, ils ont fait feu d'artifice, ils ont défilé à Marseille. Tout le pays était heureux, on est d'accord. Donc pourquoi aujourd'hui, parce que sous prétexte que c'est un Parisien qui vient jouer au stade Vélodrome, tu vas le siffler? Moi, je ne comprends pas. Je demande pas aux gens de l'ovationner et de lui faire tapis rouge, mais soyez neutre. Au pire, soyez neutre. Par contre, s'il marque un beau but, s'il est très bon et tout ça, ben, t'as le droit d'applaudir. Tu vois, c'est un spectacle, ça reste un spectacle, tu vas pousser ton équipe. C'est pour ça qu'en sélection, j'ai du mal à comprendre ces sifflets. Mais,
d'accord,
ça
fait la rivalité PSG-OM doit s'arrêter quand la sélection arrive.
Oui, normalement, mais est-ce ce qui arrive dans tous les autres pays, tous les autres pays. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on reste focalisé sur cette rivalité-là. Alors, mais
Michel, est-ce que t'es d'accord avec Jérôme?
Oui. Mais le constat est affligeant. Le constat est affligeant puisqu'il parle des autres pays et des rivalités, il y en a, au sein même d'une même ville à Milan, par exemple, ou à Gênes, ou il ne se passe jamais cela lorsqu'il y a un match de l'équipe nationale. Y compris en Espagne, où en plus d'être il y a des rivalités entre clubs, il y a des rivalités entre provinces, entre la Catalogne et la Castille, entre la Castille et le Pays Basque, ainsi de suite. Et bon, alors tu l'as dit, il y a des gens, c'est le stade est un exutoire où ils viennent pour se défouler, probablement que ils ont des moments très difficiles à la maison ou au boulot, donc ils ont payé leur place. Oui, mais moi j'ai payé, je fais ce que je veux.
Ouais.
Voilà. Et ça c'est la phrase qui te tue quand tu les entends, alors que parfois ils sifflent. C'est un minimum, mais Jean-Louis, je te signale quand ils sifflent, parce que après les sifflets, il y a les insultes. Voilà. Et j'en entends, y compris sur les terrains de district. Donc tu vois, et où là ils paient pas parce qu'il y a pas de, il y a pas de guichet, donc ils risquent pas de payer. Mais bon, ils sont là, ils sont spectateurs. Ouais, je regarde, moi je suis supporter. Bon, à un moment ou à un autre, on baisse les bras parce que il y a plus rien à faire contre parfois. Mais c'est le cas des Marseillais à Paris et s'ils viennent oui. jouer au Parc des Princes.
Bah, j'ai un
témoignage d'Éric Dimeco là qui me dit que lui il a été violemment sifflé avec l'équipe de France quand il jouait à Paris.
Hein. D'accord, non mais
bien sûr.
Attends,
je te dis.
Il y a aussi l'histoire parce que tu dis ça arrive qu'en France, en Espagne, Gavi a été sifflé récemment par le public madrilène parce qu'il est blaugrana au moment de célébrer un titre de l'équipe
nationale. Et c'est bien qu'il y ait aussi des exemples à l'étranger, mais c'est pas pour autant que je trouve ça normal. Il a raison, Eric, s'il s'est fait violemment. Ouais. Bon, à l'époque où il était en équipe de France, il y avait beaucoup de Marseillais, tu vois, à Paris, et la rivalité, elle était naissante entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Et c'est vrai que les gens confondaient un peu tout.
Ouais. Là, avant que tu reprennes le raisonnement, on a un petit souci technique avec Tony Vérel qu'on embrasse, remplacé au pied levé par Pascal Olmeta. On peut toujours compter sur lui.
Mais voilà.
Salut Pascal.
Ah là 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 les amis, ça je suis Pascal. Content d'être avec vous. Rappelez-moi le débat.
Alors précisons d'ailleurs que exceptionnellement aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, tu n'as pas préparé les débats parce qu'on te prévient au débeauté, contrairement à d'habitude. Hein, je tiens à le dire.
Il est préparé d'habitude. Il est préparé.
Rappelle-moi le débat.
Sifflé contre Mbappé, sans doute qu'il y aura ce soir.
Mbappé ou d'autres, ou les Parisiens qui vont jouer à Marseille.
Ouais, pas de problème. Mais le débat, puisqu'il me le demande, c'est les sifflets contre Mbappé ce soir. Est-ce que ça fait partie du foot?
Mais oui, mais bien sûr, quelle puissance. Mais heureusement, les gars, mais tout va avec, quoi. Mon tout Dieu. Va avec, c'est le
mon,
top.
Mon Dieu.
Ouais, il a bien préparé là.
Ouais, ouais.
Bah, on sent qu'il y a de la pied levé. Non mais quand tu dis Pascal, Dieu.
Ouais. Non mais en fait, Pascal, je vais te poser une question très simple. T'as la fierté d'être Corse.
Et marseillais.
Ce qui est normal. Non, mais la fierté d'être corse. À l'arrivée,
les Français aussi. Mon
oui, bah, bien sûr. Non, mais je te dis pas que t'es pas français quand t'es corse. Surtout moi. D'accord. En plus, surtout moi, qui ai eu la chance de vivre deux ans sur l'île de Beauté.
Pas la patrie.
Mais n'empêche que cette fierté, vous l'avez d'autant plus que dans certaines régions. D'accord. Moi, je suis parisien. D'accord. J'ai cette fierté d'être français. Et j'ai toujours défendu mon pays. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, que tu joues à Marseille, que tu joues à Lens, que tu joues à Paris, un joueur, il porte le maillot de l'équipe de France. Donc, normalement, la fierté pour tout le monde, c'est de supporter cette équipe de France quand tu mets le maillot. Donc, comment tu peux accepter, toi, avec la fierté que tu as d'être corse et français, comment tu peux accepter qu'un joueur français qui joue au Stade Vélodrome ce soir.
Que tu me parles d'insultes, ok. D'accord à 100% avec toi. Mais les sifflets, je me rappelle, je suis revenu pour la première fois jouer à Bastia, je me suis fait siffler. Mais
c'est
ça
différent.
M'a motivé.
Différent.
C'est différent.
Là, tu me parles d'un football de club. Là, on parle d'un football de sélection, Pascal. Là, ce soir, les gens qui vont venir au Stade Vélodrome, rassure-moi, ils sont pour l'équipe de France. Ils sont pas pour l'équipe du Chili.
Mais avant tout, t'es d'accord avec moi. Mais je te réponds, oui. La majorité, c'est pour l'équipe de France. Mais il y aura cette poignée de personnes qui sont pas et qui aiment pas Paris, qui siffleront les Parisiens.
Bah, excuse-moi, mais de penser que c'est des imbéciles.
Mais ça peut être des imbéciles, comme tu. Mais après,
mais
c'est.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux cultiver la rivalité PSG-OM. Parce que j'ai toujours dit, ça fait partie de notre football, de notre culture.
Mais c'est ça qui est toujours défendu, parce que
le package, c'est que, avec l'équipe de France, tu te fais siffler dans le stade de l'un ou de l'autre.
Parce que l'équipe de France est à part, Jean-Louis. Non, mais je te dis pas. Mais tu t'en remets. Bah, il va s'en remettre. Moi, je m'en suis remis à l'époque à Montpellier.
Tu as eu du mal.
Non, mais oui, parce que cette fierté d'être français, de défendre mon pays. Je peux te dire que j'ai pris un coup dans la tronche. Mmh. Et la preuve, rappelle-toi, quand on a préparé l'émission.
C'est pas parce que tu siffles que tu n'aimes pas la France, Jérôme.
Non.
C'est pas parce que tu siffles.
Mais c'est, moi, je trouve que c'est être totalement contradictoire. Tu vas pousser, et les Marseillais, tous les Marseillais qui sont, et ceux qui vont siffler, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais ceux qui vont siffler, ils étaient bien contents en 2018 que l'équipe de France, elle soit championne du monde, grâce aussi à Kylian Mbappé et à des Parisiens.
Après, il y a beaucoup de supporters de l'OM et du PSG qui préfèrent leur club à la sélection.
Non mais attention, et dans ces cas-là, on ne te demande pas de venir au stade. Si tu préfères l'OM, et je peux le comprendre, au foot de sélection à l'équipe de France, ne viens pas au stade. Laisse ta place, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir, pour siffler les Parisiens, parce que Mbappé, et je t'ai donné la liste, il y en a cinq que tu peux siffler ce soir.
Mais Jérôme, j'ose espérer que tu ne découvres pas qu'il y en a qui vont au stade que pour se faire un joueur. C'est leur.
Alors,
j'y pense toute la semaine et c'est, ouais, c'est le cas. Et puis, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Mais Jean-Michel,
quand j'étais gamin, quand il y avait sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, quand il y avait des Parisiens qui débarquaient, c'est pas hier, c'est mais même pas avant-hier, et c'était Parisien tête de chien, oui, Parisien tête de veau. Il y a toujours eu cette rivalité.
C'était plutôt sympa, avec le recul. Maintenant, c'est beaucoup plus violent.
Jean-Michel, on a bien Jérôme qui veut aller au JO pour siffler Messi. Alors,
mais ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que tu me racontes?
Mais voilà, les sifflets. Mais les sifflets, ça fait partie du football.
On est d'accord.
Ça fait partie du football.
Mais c'est un peu Jérôme contradictoire.
Mais quelle contradiction?
Explique-nous pourquoi
Jérôme, mais Messi, il est dans son pays ici en France. Messi est dans son pays ici en France.
On pourrait dire là, c'est la sélection.
Donc c'est Messi. Alors Messi, c'est meilleur joueur du monde. Mais en fait, on doit tout accepter. Mais arrêtez, voilà. Mais vous mélangez tout.
Ça n'a rien à voir avec un club.
Mais les spectateurs, ils ne voient pas Mbappé joueur de l'équipe de France. Il voit Mbappé joueur du Paris Saint-Germain.
Mais c'est ça qui est dommage.
Tu vois Messi, ancien joueur du PSG,
mais
joueur de l'Argentine.
Il n'y a aucune contradiction, Jean-Louis. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'Argentine avec Messi ou sans Messi. Moi, je suis pas pour l'Argentine. Moi, je suis pour la France. Moi, tu me verras jamais siffler un joueur français.
Tu comprenais? Tu disais que les sifflets envers Messi étaient normaux.
Mais c'est normal. C'est normal.
Ce soir, c'est normal, les sifflets
envers un joueur. Quand il appartient à un club et que ce joueur-là n'est pas à la hauteur et te le rend pas en termes d'image dans la communication, c'est normal que les supporters se sentent concernés par son attachement qui a jamais existé et qui le siffle.
Selon tes critères à toi.
Avant la Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Argentine, les quatre premiers mois, il a pas été mauvais.
Pas faire l'histoire de Léo Messi parce que là, vous êtes complètement hors sujet. Jean-Louis, il veut me mettre un taquet là-dessus.
Je sais pas pourquoi tu m'en parles, c'est Pascal qui a dit ça.
Non, mais
moi, je te demande d'expliquer ta contradiction. Pascal.
Mais c'est pas une contradiction en fait, parce que à l'arrivée,
des sifflets dans
moi je dis juste que tu es en France, tu représentes ton pays, un élan de patriotisme, ça fait pas de mal en France, d'accord? Et donc c'est pas parce que avant ça se passait comme ça, et je vous le dis, j'en ai fait partie, de siffler des joueurs français avec le maillot de la sélection dans des endroits où
t'en as souffert.
Bah, la preuve, ça m'a marqué parce que quand tu représentes ton pays et que tu as cette fierté-là. Mais oui, Pascal.
Jérôme.
Alors attends, Jean-Michel, je voudrais qu'on fasse intervenir Pablo. Ah oui, tu veux te rappeler de quoi? Vas-y.
J'essaie de me rappeler un match qui était une demi-finale de l'Euro où il devait y avoir des Parisiens dans l'équipe de France du temps de.
France-Portugal 84?
Oui, mais il y avait Louis. Il y avait Louis. Jérôme, je t'assure, match officiel, match de demi-finale de l'Euro 84.
Il n'y a pas eu de sifflet.
J'ai pas entendu un sifflet.
Mais c'est pour ça.
Le fait que ce soit un match amical, sans intérêt,
c'est pas
l'intérêt.
Faux.
Voilà, je pense que ça,
comme
ça
toi,
joue aussi
à Montpellier à l'époque.
Et il y a eu un match, il y a eu la demi-finale à l'Euro 2016, France-Allemagne.
Oui.
D'accord. Est-ce qu'il y avait des Parisiens? Parce que Mbappé n'était pas là, ça c'est sûr. Mais s'il y avait des Parisiens, vu l'ambiance fantastique qu'il y a au stade Vélodrome, je ne pense pas qu'il y ait eu des sifflets sur des Parisiens.
Pas les Parisiens là, mais c'est pour ça. Alors voyons ce qu'en pense Pablo, qui nous rejoint au 32-16. Est-ce que siffler Mbappé ce soir, ça fait partie du foot?
Salut Pablo.
Salut tout le monde.
Bienvenue Pablo.
Salut Pablo.
Je suis un peu mitigé quant à votre débat en fait, parce que moi, honnêtement, l'équipe de France, j'en ai rien à faire.
Ah bah oui.
Je vous dis la vérité, je suis supporter de l'OM et l'équipe de France, j'en ai absolument rien à faire. Ce soir, il y aura un public de footix au stade, donc ça sera essentiellement des minots.
Tu vas pas au stade, toi?
Non, moi, je vais pas pour d'accord. l'équipe de France en tout cas. Genre, pour l'équipe de France, ça me fait pas me lever de mon siège. Quoi. Je sais même pas si je regarderai le match.
Mais Pablo, t'aimes ton pays ou t'aimes que l'OM?
Eh ben, en fait, moi, je suis un peu embêté avec cette question, parce que moi, j'ai la chance d'être binational en fait et d'avoir grandi en France, d'être né en France, mais d'une famille italienne. Donc, genre, je suis assez mitigé dans mes compétitions internationales.
J'aime mon pays. Donc, italien. Ça, je peux te dire, je connais ça à la maison. Donc tu es pro-italien.
Donc tu te sens plus proche de l'Italie, mais bon, tu as le droit.
Ah ben oui, mais ça c'est sûr.
Culturellement parlant, évidemment, parce que j'ai grandi dans ce univers-là. Mais après, je crache pas sur mon pays par rapport à tout ce que ça m'a apporté, ce que j'ai grandi ici et compagnie, et tout non, ce que j'ai vécu en
compétition. Ouais, bah après Pablo, c'est dommage quand t'es passionné de football, comme tu dois l'être, de pas regarder un match de ton pays, parce que t'as la chance d'avoir deux pays. Alors en plus, c'est l'avantage.
Après, tu pourras aller voir Alexis Sanchez.
Mais Alexis Sanchez, pour ce qu'il est pour la saison qu'il a fait à l'OM, je le remercie, mais s'il avait voulu rester vraiment, il serait resté.
Ah bah ce sera notre débat tout à l'heure à 18h30, voilà. Donc voilà.
Donc en tout cas, voilà, pour vous dire, moi le ce soir Mbappé, qu'il soit sifflé ou pas, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il prenne la bronca dimanche. Parce que dimanche,
non, mais ça, tu as raison. Voilà, mais est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu les comprends les sifflets sur les Parisiens soir? Parce que Mbappé et d'autres, hein, parce que non, moi, je... vas-y.
Ceux qui vont aller siffler Mbappé et les Parisiens ce soir, c'est des bouffons. Voilà. C'est des bouffons. C'est des mecs qui vont aller au stade et qui vont dire on va se faire un Parisien. C'est l'équipe de France, ça n'a rien à voir. Mmh. Allez, laissez les mecs jouer au ballon. C'est un match amical bidon au milieu de mars là qui sert à rien en plus.
À part Pablo, c'est pas grave, Pablo.
À part une revue d'effectifs, là, à part une revue d'effectifs bidon de Deschamps, c'est très bien que les 26.
C'est le match du rachat, attention.
Mais Pascal, je suis désolé. Ouais. Toi, tu dis que c'est pas grave. Moi, je pense.
Pas grave. Attends, Pablo, il te dit qu'il va pas voir le match. Oui. Il est italien avant tout.
Mais au contraire, et il te dit que
ceux qui vont siffler, c'est des bouffons.
Eh ben oui.
Mais c'est n'importe quoi, Pablo. Ah, qu'est-ce que tu racontes?
Si tu siffles un Parisien ce soir au stade Vélodrome parce que tu vas être au match, je trouve ça complètement ridicule. C'est pas une question de te dire en face. C'est juste arrête de penser toi d'une certaine façon et de penser que les joueurs qui se sont fait siffler avec le maillot de la sélection, c'est pas grave. Alors, en fait, tu t'en remets. Bien sûr que tu t'en remets, mais ça reste un traumatisme. Je suis désolé.
Souffert, toi, Jérôme.
Mais oui, il l'a dit déjà.
La sélection en club, Pascal, je vais te dire la vérité. J'ai toujours essayé
Jean-Michel, il a connu l'occupation.
De me nourrir des sifflets en club. En sélection, je trouve que c'est pas normal qu'un joueur français se prépare psychologiquement à subir
de répondre premier degré, Jérôme, il raconte n'importe quoi, Pascal, pour te faire des goupilles. Merci Pablo d'être venu au 37. Pablo. Précision, Jean-Michel.
Salut Pablo.
J'ai un historien du foot qui m'écrit.
Salut, toi aussi.
L'exemple de 84 n'est pas bon, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de rivalité Paris-Marseille, Jean-Michel. C'est venu après, 90,
donc 2016,
un art tapis, etc. 2016, ça marche, mais pas 84.
Je prends cette remarque comme je serai moins bête après cette émission. Voilà.
On salue Daniel Riolo qui nous écoute. Dans une seconde, ceux qui fantasment le passage d'Alexis Sanchez à Marseille se trompent. On fait entrer les accusés dans quelques secondes. A tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h27 sur RMC, on est là, on est bien. Deuxième demi-heure de Roten sans flamme, elle débute maintenant avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Ne ratez pas le moment de Julien Cazard à 18h45 pour se détendre, oui, bien sûr, parce qu'après 19h, il y aura encore beaucoup de débats. Mais là, c'est un bon fait entrer l'accusé.
Oui, le bon débat de 19h, c'est sur le capitanat en bleu. Est-ce que c'est si important? Puisqu'on a pointé du doigt les attitudes de Mbappé contre l'Allemagne, Deschamps a dit. Si c'est le genre de capitaine que vous attendez, bah vous allez être déçu.
Et puis on a un invité rare aussi, hein.
Fabrice Fiorez.
Ah oui.
Eh oui.
Celui des hommes qui a marqué les classicos.
Certains l'ont qualifié de traître, hein, à un moment. Quand il a fait Paris-Marseille à l'époque, ça a été très dur.
Oui. De toute façon, quand tu fais Paris-Marseille ou Marseille-Paris. C'est très difficile et le mot traître est assez fort, je pense.
Moi, j'ai fait Paris Marseille, ça s'est bien passé.
Non, pas assez.
Ah, bah, on en parlera tout à l'heure avec lui, alors.
Très bien. Écoute, je pense
qu'on rendez-vous à 19h30.
Quand tu partages.
Quand tu partages
le vestiaire à Marseille ou à Paris, que t'as porté ce maillot, que t'as eu la fierté de le porter, je suis désolé, oui, c'est le mec qui fait l'inverse.
En revanche, il n'aurait pas fallu le siffler s'il avait été en bleu.
Mais Fio, il n'y avait pas de problème. Moi, il a fait son choix. Maintenant,
il n'y a pas de problème, mais c'est un très quand même.
Moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait, c'est tout. Allez, après, j'ai le droit d'avoir cette version-là.
Fio sera là tout à l'heure à 19h30, s'il décroche, bien sûr, on l'espère.
Mais non, oui, il va décrocher lui.
Tout de suite, retour de Sanchez au Vélodrome ce soir.
RMC, Roten sans flamme.
Il va falloir venir chez nous, hein. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses.
Faites entrer l'accusé.
On rappelle cet argument de Pascal à la fin du 18h, viens me le dire en face.
Ouais. Même le dire
Jérôme, bon argument. Ce soir, donc, le Vélodrome retrouve.
Je vais être là pour la confrontation. Je vais être là.
Ah, bah, la dernière fois, Pascal s'est écrasé complètement quand il a croisé Jérôme.
De toute façon, quand il monte sur Paris, je veux dire, il est sur sa garde.
C'est sûr. C'est pas comme en Corse où il est confiant.
Ah, en Corse, il est confiant, il est chez lui.
C'est lui, bien sûr.
C'est normal, mais à Paris, c'est pas la même.
Jamais eu peur d'un homme.
Je veux dire, il regarde toujours dans le rétro. Hein.
T'as jamais eu peur d'un homme?
Ni d'un animal, je crois.
Bon, le Vélodrome retrouvera ce soir donc Alexis Sanchez, l'attaquant chilien qui a porté l'OM la saison dernière, on s'en souvient, adoré par les supporters. D'ailleurs, les supporters devraient le réserver un bon accueil, c'est ce qu'ils ont raconté à Florent Germain, notre correspondant à Marseille.
C'est ça exactement, la grinta, la classe technique, et moi vraiment je trouvais que c'était un joueur complet, il nous avait impressionné. Et moi quand j'ai vu la différence en plus de salaire entre Sanchez et Aubameyang, j'ai pas compris ce transfert.
C'est quelqu'un qui touchait bien le ballon, qui se battait pour l'OM, ça a été un Sanchez, on a pris un bon Sanchez. Moi c'est un grand regret, qu'il soit parti c'est vraiment un grand regret.
On est nostalgique, mais bon on va dire qu'Aubameyang il a su nous le faire oublier, donc franchement cette année ça va, on n'a pas à se plaindre finalement. Je pense qu'il va se faire un peu huer moi je pense, après c'est mon avis perso, mais à mon avis il va pas être pas très bien accueilli.
Moi je pense qu'il y a innovation quand même parce qu'il nous a quand même fait une sacrée saison. On est quand même là pour le soutenir.
Il mérite des applaudissements sans trop en faire. Pour moi, il aurait dû rester. Il aurait peut-être pu lui aussi vouloir rester. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire trop non plus.
Alors, vous avez vu les avis plutôt nuancés. Mais on va s'attaquer à ceux qui idéalisent le passage de Sanchez. On en a entendu certains. Ils sont accusés de fantasmer cette période, comme si tout avait été formidable, merveilleux avec Alexis Sanchez. L'accusation est menée ce soir par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir, messieurs.
L'avocat de ceux qui ont adoré le passage de Sanchez à Marseille et qui trouvent qu'il manque, sa présence manque aujourd'hui, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir, maître.
Bonsoir à tous.
Et son bel accent, très bel accent marseillais. Le juge qui va trancher, donc, c'est le juge Pascal Olmeta. Bonsoir, monsieur le juge.
Ouais, bonsoir à toutes.
Allons-y donc, monsieur le procureur Larquet. Qu'est-ce que vous reprochez aux supporters de l'OM qui idéalisent le passage de Sanchez?
De pas connaître l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas dire ici que Sanchez est une légende de l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas dire non plus que c'est un joueur moyen. C'est un bon joueur qui a passé un an et puis qui a tourné le dos à l'Olympique de Marseille. Et il a préféré le banc de touche de l'Inter de Milan. D'ailleurs, il sortait du banc de touche de l'Inter. Il est arrivé à Marseille. Il a eu la chance de jouer, de bien jouer, de rendre des services à l'Olympique de Marseille et puis de préférer à nouveau le banc de l'Inter de Milan à un poste d'avant-centre à l'Olympique de Marseille. Ne serait-ce que pour ça, déjà, pour cette attitude, je trouve que le mot légende est très discutable. Et je ne fantasmerai pas sur quelqu'un qui m'a tourné le dos alors qu'on lui proposait un contrat, somme toute, tout à fait convenable. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, tout est histoire de comparaison dans le football. Toute cette histoire, parce que si Alexis, si je fantasme, ou s'il y en a qui fantasme sur Alexis Sanchez, ils oublient quand même que l'Olympique de Marseille a eu d'autres avant-centres qu'Alexis Sanchez. Et quels autres avant-centres? Alors certes,
Il
est meilleur que Mitroglou, que Germain ou que Vitinha. Mais par rapport à un Josip Skoblar, un Jean-Pierre Papin ou un Drogba, oh, ou un Mamadou Niang, oh, il est où? Il est au rez-de-chaussée. Non, il n'est pas au rez-de-chaussée. Il est à la cave. Donc, moi, je veux bien que il ait rendu des services. Aubameyang, après 2 mois et demi, 3 mois, où il avait les pieds à l'envers, il a, comme l'a dit justement un supporter, il est en train de faire oublier Alexis Sanchez. Donc, je ne pense pas qu'on puisse fantasmer sur les performances d'Alexis Sanchez. Et puis, la façon, je le répète, dont il a tourné le dos à l'Olympique de Marseille, rien que ça, ça ne méritait pas d'en faire une légende.
Maître Rotten.
Bah, déjà, je voudrais rebondir sur la dernière phrase de Monsieur Larquet, hein, dire rien que ça, la façon dont il a traité l'Olympique de Marseille. Alors, je pense qu'on peut pas se mettre au milieu des discussions dans tous les cas, parce qu'on saura, on saura jamais réellement ce qui s'est passé, parce qu'avec Pablo Longoria, on l'a vu avec Jorge Sampaoli, juste hier qu'on a fait en interview, nous a expliqué aussi comment ça s'était passé, qu'il a beaucoup de respect, mais que il y a quand même beaucoup de choses. qui laisse un petit peu à désirer chez Pablo Longoria. Donc
Pablo Longoria, c'était parole d'évangile.
Oui. Bah, ça a évolué. Hein. On peut évoluer aussi avec ce qui se passe et sur la saison, l'instabilité. Mais bon, peu importe. Donc moi, j'irai pas sur ce terrain-là parce que Alexis Sanchez a montré à travers des négociations avec l'Olympique de Marseille qu'il pouvait s'investir sur la durée avec l'OM. Après. Faute de moyens certainement de l'OM ou d'un contrat mirobolant comme nous a expliqué l'Olympique de Marseille, il pouvait pas s'aligner sur les demandes d'Alexis Sanchez. Sauf que malheureusement pour les dirigeants marseillais et pour Pablo Longoria, on a vu la grille de salaire la semaine dernière sortir dans l'équipe. On a vu 650 000 euros pour Aubameyang par mois et 450 000 euros par mois pour Correa. Si vous prenez pas ces deux joueurs, vous gardez Alexis Sanchez, vous pensez que l'OM n'avait pas les moyens de garder Alexis Sanchez? À ce que je sache, il réclamait pas plus d'un million par mois.
Il préférait le banc.
Donc pour moi, c'était pipeau et on a mis ça sur le devant de la scène en disant ah bah ouais, mais il est trop gourmand à son âge et tout ça. Il voulait rester avec un salaire qui méritait un meilleur salaire par rapport à son année, parce que là j'en reviens à ce que monsieur Larquet vient de nous expliquer. Mais il a la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte, monsieur Larquet, parce que l'année dernière, si l'OM a fait le tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est aussi grâce à Alexis Sanchez. C'est aussi grâce à Alexis Sanchez et ses déclarations. Et je me souviens au mois de janvier, quand l'OM commençait à baisser de pied, il a pris les devants. Il a parlé parce que c'est un joueur comme ça. Il s'est identifié à Marseille. Il a compris ce que c'était l'OM.
Ah, il s'est tellement identifié qu'il est parti.
C'est-à-dire qu'il a compris tout au long de la saison. Et c'est pour ça qu'il était apprécié et que les supporters l'ont apprécié et le regrettent aujourd'hui. Parce qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, il faut des joueurs qui ont cette grinta, qui s'identifient à l'OM, qui poussent les autres. Alors, par moment, dans un vestiaire, ça fait mal parce que les joueurs, dans le confort, et on les voit cette année, c'est pour ça qu'en championnat, ils sont tellement bons qu'ils sont 8e ou 7e du championnat et qu'ils font un championnat très, très moyen par rapport à l'année dernière. Parce qu'ils ont perdu des hommes de vestiaire, des hommes comme Sanchez, des vrais leaders qui poussaient les autres. Alors après, on peut toujours dire les stats. Ah oui, Aubameyang a marqué plus de buts et tout ça. Oui, mais le profil de ces joueurs-là est différent. Et excusez-moi de penser qu'ils ont perdu beaucoup plus au change que certains peuvent le dire sur le terrain et aussi en dehors. Parce que sur le terrain, Alexis Sanchez, bien sûr qu'il marque moins de buts qu'Aubameyang. Mais par contre, dans le jeu, la relation, et on l'a vu l'année dernière dans ce que demandait Tudor, par exemple, la relation entre le milieu et l'attaque, très souvent, par rapport à la qualité technique qui est bien supérieure à Aubameyang, eh ben, Sanchez a fait des différences.
Et
a permis aussi aux autres de faire des très belles saisons qu'on n'a pas retrouvées cette année. Voilà. Mmh. Donc, pourquoi le manque est terrible et que, à l'arrivée, je vous dis juste, il aurait pu s'investir d'autant plus à Marseille et il le voulait. Ça a été un choix différent de la part du club. Ça, c'est désolant.
Alors, Maître Roten, je vous remercie. Passons la parole au juge Olmeta qui doit trancher entre ces deux affaires. On rappelle que donc Monsieur Larquet attaque ceux qui ont fantasmé le passage d'Alexis Sanchez à Marseille. Il était si bien que ça, ce passage ?
Ouais, on le regrette. Des joueurs comme ça, il faut pas les laisser partir. Des joueurs qui avaient ce tempérament de porter avec une équipe, d'être à 100% sur un match, tu fais tout pour le garder. La preuve, il a dit, Jérôme, et je vais dans son sens.
Wow. Le penalty contre Annecy, on l'oublie, tout ça.
Oh, ça va. Arrête.
Oui, non, mais c'est vrai, Jérôme. Non, mais des joueurs, faut savoir les garder. Ça m'a beaucoup ennuyé de le laisser partir.
Surtout qu'ils aient envie de rester, Pascal.
Mais tu pouvais le garder, Jean-Michel, et il avait envie de rester. Mais
après, c'est une victoire de Jérôme dans ce fait d'entrer l'accusé. Notons que Pascal est peut-être meilleur quand il prépare pas l'émission.
Mais c'est Jean-Michel, c'est peut-être comme avec une femme. Prouve-lui que tu l'aimes. Elle va rester.
Je retire ce que j'ai dit. Allez, dans une seconde.
Je vois pas du tout le.
Va aller mieux. C'est maintenant, l'oseille.
J'aurais fallu mettre l'alerte 30 secondes avant, mais c'est pas grave.
C'est maintenant. C'est 5 minutes.
Donc vous avez 5 minutes pour envoyer Koff au 7-32-16. Vous gagnerez peut-être 50 000 euros à la fin. Jérôme a, comme d'habitude, menacé de démissionner s'il n'y avait pas les 50 000 dans le coffre.
Jérôme, il en a besoin.
Coffre au 7-32-16.
Un joli coffre, Pascal.
5 minutes.
Je vais t'envoyer du monde, ça fait jamais peur aux courses.
Coffre au 732-16, c'est tout ce qu'il faut retenir pour peut-être gagner 50 000 euros. Dans une seconde, le casar enchaîné, sa chanson autour d'Antoine Griezmann. Ne ratez pas ça, grand moment. A tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Roten sans flamme. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Je rends hommage au soldat Pascal Olmeta. On l'appelle au débeauté à 18h05 et il est là. Et il fait le boulot. Bah, il est dans l'émission.
Tu veux qu'il fasse quoi? Il fait rien. Il s'embête au village.
Vous me dites, tous que vous avez un planning hyper chargé à chaque fois.
Non, pas Pascal.
Lui, il s'organise.
Pas Pascal. Ouais.
Non, j'avais beaucoup de choses à faire, Jérôme, mais quand mon ami Antoine m'a appelé. Tout l'après-midi, j'ai beaucoup mangé de pruneaux. Il fallait que je reste à côté de
ouais, d'accord.
Alors, il fallait que je reste.
Ah, et bah, oui, d'accord. Les pruneaux d'Agen.
D'accord.
Ouais. C'est les pruneaux d'Agen.
Les pruneaux de chez toi. Ouais.
C'est intéressant. Merci, ouais. Pascal.
Merci, Pascal. Ouais.
Et on rappelle que Tony Vérel n'a pas de souci. Hein. C'est juste un détail technique. Hein. Il reviendra.
Ah oui, d'accord. Il s'est pas fait enfermer.
C'est pas ce qu'on m'a dit. Hein.
Il n'est pas enfermé.
Bon, il n'est pas enfermé, il est libre.
Bon, ça va.
Et tout va bien se passer pour toi.
Tant mieux.
Allez, on revient dans une seconde. Julien Cazard, tu aimes bien Julien Cazard, ouais. Pascal ?
Appelle-nous, Tony, non, c'est un problème.
Cazard.
C'est pour toi, là. C'est pour toi ce soir.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h43 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure de Roten sans flamme avec le moment de Julien Cazard et son Cazard enchaîné. Bien sûr, après 19h, on est de retour avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta et avec Jean-Louis Tour, avec le problème de Capitana. Oui, on va parler du brassard à 19h, Jean.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment important, le capitaine en équipe de France? Ce sera le débat à 19h, donc. Et on aura des infos compo pour ce soir. France-Chili, le Vélodrome, 21h. On va enchaîner
pas de
tout
surprise.
À je rappelle l'événement. Notre feuilleton OM-PSG, tous les jours on en parle. Hier on en a parlé avec Jorge Sampaoli, qui était notre invité exceptionnel. Tout à l'heure on sera avec Fio, comme tu l'as appelé,
ouais, Fio.
Fabrice Fiorez, qui a connu les deux clubs, Paris et Marseille. Donc, et puis le quiz, Jérôme, tu as gagné hier. Tu as gagné hier, donc tu es en route pour un grand chelem. Il y aura une mini enceinte intelligente Google Nest à gagner.
Ah bah, ça tombe bien, on est avec Pascal.
Pour l'intelligence ?
Bah oui.
Bien sûr. Et puis alors, je rappelle, on rajoute une minute, puisque Jérôme, tu es généreux, vous avez encore une minute pour envoyer coffre
maintenant.
Par SMS.
C'est généreux.
Au 732-16. Coffre au 732-16. Il y a eu l'alerte là, il y a quelques
jours. Oui, 50 000, Pascal. Qu'est-ce que tu me racontes ?
50 000 euros à gagner. Peut-être dans le coffre.
C'est pas de la générosité, ça ?
Et encore une fois, Jérôme a menacé beaucoup de gens pour qu'il ait les 50 000
euros. Ça sera dans l'émission.
Je sais pas si on peut s'y engager à ce point,
non,
Jérôme.
Bah, écoute,
c'est un coffre, on
surtout
sait pas
quand
dedans.
T'as déjà gagné 2500 euros.
C'est ça. Et vous êtes tiré au sort, vous gagnez 2500 euros et après, vous pouvez les remettre en jeu pour gagner soit 50 000, soit une semaine de vacances dans un camping pour 6 personnes. Donc c'est le coffre RMC, vous envoyez coffre au 732-16. C'est maintenant que ça se joue. Tout de suite, on se détend, car l'artiste entre dans l'arène.
RMC Roten sans flamme.
Le Cazar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien, les copains? Oh, j'entends une jolie voix venue du sud, non?
Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta.
Ouais, c'est ça. Ouais. La jolie voix venue du. Alors, il y a une venue du sud. Salut, un peu plus Cazar. Au sud. Voilà, Cazar. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et le PSG n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions. Il y a un petit côté Marcel Carton, Marcel Fontaine pour les plus vieux d'entre nous. En préambule, je voudrais revenir sur une polémique. Une polémique qui émaille les prochains JO. Je ne parle pas de la présence ou non de Kylian Mbappé, ça, de toute façon, on en fera 15 débats. Mais de la chanson qui va accompagner la cérémonie d'ouverture. Et oui, en effet, il y a eu une grosse polémique autour du choix de Nakamura.
Aya Nakamura,
pas le joueur de Reims, la chanteuse. Et tout le monde a donné son avis sur elle, par des gens qui sont pas des connaisseurs. Pardon, moi, je connais rien. Je trouve qu'est-ce qu'elle chante, c'est de la daube. Mais qui suis-je? Puis que moi, mon expérience musicale, ça s'arrête à faire des parodies de la Ligue 1 sur les démons de minuit ou Macumba. Donc j'ai pas trop d'avis. On attendait l'avis d'un vrai. D'un chanteur artiste,
d'un chanteur,
un mec de la chanson qui a mis la musique au rang d'art universel, qui a ajouté la philosophie.
Ah oui.
Je vais même bien sûr parler de
Eric Cantona.
Eric Cantona, on lui dit qu'est-ce que vous pensez? Un peu raciste.
Pourquoi tu dis que c'est un chanteur? Arrête.
Bah si, il a fait des concerts avec du public.
Ah bon, chanteur, Eric Cantona.
On a déjà parlé.
Non, il a rempli des chaises entières.
Quand vous pourrez faire ce qu'il fait, mais vous pourrez.
Et moi, j'ai rien dit, Pascal. Pourquoi tu me dis? Je demande à.
Mais si, vous êtes tous peureux à me le critiquer.
Mais non, je croyais qu'il me parlait de Patrick Bruel.
Patrick Bruel, c'est ringard.
C'est Patrick Bruel qui avait donné son avis.
Ah bah oui, moi aussi. D'ailleurs, Patrick Bruel est meilleur au foot que. Bon. Et oui,
qu'on écoute son avis.
Cantona a un avis sur la polémique. Et sur la. Ayana Kamara qui était un peu victime de racisme pour certains. L'avis de d'Eric Cantona, c'est toujours intéressant quand même d'écouter.
Est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Voilà. Mm-hmm. Je peux vous dire une phrase de Thomas Pesquet qui a dit qu'il était dans l'espace et qui voyait la Terre comme nous on voit la Lune, qui a dit de là où je suis, il est difficile de comprendre les frontières, la haine et les guerres. Parce que sinon, soit on décide de dézoomer, soit on décide de zoomer.
Zoom.
Parce qu'à ce moment-là, les frontières d'un pays, c'est les frontières d'une région, les frontières d'une ville, et puis les frontières d'un quartier, puis les frontières de notre rue, puis les frontières de notre maison, et puis les frontières d'une pièce dans la maison, et puis finalement, on finit sur notre nombril.
Merci.
Bah, c'est vraiment bien.
Mais franchement, ça fait du bien.
Tu fermes les yeux.
Parce que quand tu dézoomes, ça n'est pas si tu dézoomes.
Bah oui.
Ou si tu zoomes.
Non, mais le raisonnement tient la route, quoi.
Bien sûr, ça fait du bien.
Et donc,
tu zoomes, toi?
Moi, je dézoome. Laisse-moi zoom.
Non, j'ai bien zoomé.
Il est bien. Mais non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de zoomer.
Moi, ils montent pas les gens les uns contre les autres.
Oui, ça se voit.
On
est tous ensemble, quoi.
Il est top, les gars. Il est au top. Toi,
quand tu fais une série, moi je dézoome personnellement. Quand tu joues au théâtre, ça fait du bien un vrai philosophe.
Qui fait des séries, toi?
En attendant, je fais des séries de 15, de 20. En attendant, ça ne règle pas le problème de la chanson des JO.
Oui.
Il y a toujours cette polémique autour de Ayana Kamara.
Moi j'aime ça pas. À la base.
Mais oui, non, mais c'est ça, il parlait de ça. Et moi je dis, qui pour la remplacer? Parce que moi j'ai bien des idées, mais vous imaginez. Non, stop! Ok, c'est bon! On met Ayana Kamara, c'est bon, c'est pas, on n'est pas obligé! Ça, c'est vraiment, ça se fait pas, prévenez les mecs!
Qu'est-ce que tu lui mets à
Mais il balance un live de Cantona sans prévenir, mais on est à la limite des conventions de Genève là! Waouh! Allez, sommaire! Ils sont malades, non, mais
Pascal!
Non, mais on peut pas.
Des plaintes!
Dans cette édition, nous reviendrons. Sur le match! Ce soir contre le Chili et la grosse tuile. Alors la tuile, alors là pour le match de ce soir qu'on n'a pas vu arriver là.
Laquelle?
De quoi?
La blessure de Griezmann, on l'a vu arriver.
Oui, non, pire que ça. On l'a pas vu arriver.
Mbappé, il sera pas titulaire?
Mais non, à la limite ça, on l'a pas vu, mais de toute façon, sans lui, on peut perdre. Mais non, pire que ça! Pire que ça pour TF1 ce soir!
Jean-Michel commente le match.
Ah, c'est fini, laisse-le tranquille, le pauvre. Non, M6 contre-attaque. M6 fait une contre-programmation.
Non.
Alors qu'ils sont dans le même groupe.
Oh, c'est dingue.
Pour flinguer la soirée de foot. Mais c'est. Mais non,
ils sont pas dans le même groupe, qu'est-ce que tu racontes?
M6 TF1, c'est plus le même groupe. Ah non, ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché.
Non, mais rigole. C'est dégueulasse de faire ça. Je pense à Nicolas Pagnol.
C'est quoi la contre-programmation?
C'est quoi?
Mais si tu peux pas lutter, le match, ça va faire vite. Moi, je pense que ça va être la pire audience de l'histoire de TF1. La nouvelle série, t'as pas vu la nouvelle série incroyable?
T'as la bande-annonce, peut-être?
Ah, je l'ai.
Je fais partie de ceux qu'on croise tous les jours. Longtemps, j'ai cru qu'on pouvait compter que sur soi. Alors quand les pouvoirs publics ne peuvent plus rien, je fais appel aux gens comme moi, ce qu'on appelle les anonymes. Mon nom est Castaneda, et je vais vous raconter mon histoire.
C'est chaud de partout, les gars.
Il fait une série sur Jean Castaneda.
Mais c'est Jean Castaneda, le
gars. On va réécouter quand même.
Plus, là.
Écoutez, le nom.
Mon nom est Castaneda.
Non, mais les mecs.
C'est une série sur Jean Castaneda.
Il hésitait avec. Mon nom est Pascal Olmette. Mais là, ça faisait vraiment trop mafieux. Mon nom est Jean-Luc Ettore. Là, ça fait vraiment trop passoire. Il s'est dit Castaneda, entre les deux.
On salue Jeannot Castaneda.
Et Jean-Luc Ettore.
Jean-Luc, il a rien demandé. Il a dit passoire.
Ah, bah tu veux.
Jean-Luc Ettore.
Alors. Si tu veux, c'est que.
C'est la séance de péno.
Il n'a pas plongé. Bon, d'accord. Alors, mais...
Au moins, Pascal, il plongeait du mauvais côté. Il a plongé.
Ah là.
Pascal, tu te rends compte. Pascal, ce que tu prends là. Et ton ami aussi, Canto.
Et toi, arrête de te moquer d'imiter Ettore à l'entraînement.
Écoutez, la vraie. Donc, peu de gens vont regarder France Chili. Évidemment, tout le monde sera sur M6. Pour regarder là.
C'est la première de sa nouvelle série.
C'est la première ce soir, mardi 26 mars.
Non, mais moi, je vais regarder.
Bien sûr qu'on va regarder.
Castaneda.
Ça ira bien.
Alors, pour ceux qui vont regarder le match.
Alors qu'on s'en fout de ce match, évidemment. Bon, on va regarder quand même. Et on a vu la conf de presse. Pour une fois, il y avait ces derniers temps, il fait les confs de presse, Mbappé.
Oui.
On va pas le voir. Et Mbappé, c'est vrai qu'on aime bien parce qu'il parle bien, Mbappé.
Ah bah oui.
Il parle très bien. Il parle peut-être trop bien.
Très fort.
Et parfois, il s'emballe. Et
ça
il
en dérape.
Et ça dérape.
Quand même un match amical, mais il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues. Et...
Il s'est pris pour Aimé Jacquet, c'est pas au-delà.
Au-delà ou
on peut aller au-delà. Alors, lui, il va au-delà. Nous, on va au-devant de grandes déconvenues. Alors,
oui,
vous savez ce que vous dire, Jérôme, il va dire c'est encore du Mbappé bashing. Et n'empêche que gnagnat, et voilà. Non, il y a des gens malveillants comme moi,
Et
des gens bienveillants comme d'ailleurs Riolo, qui pour le coup l'a défendu, mais vraiment il le défend, mais on va voir pourquoi. Vous allez voir. Écoute.
Aller au-delà de grosses déconvenues et on veut pas que ça nous arrive, donc c'est à nous de réagir dès demain pour pas installer, comme ils ont dit avant, un certain doute dans l'équipe qui n'existe pas habituellement.
C'est rare qu'ils se plantent sur les expressions.
Oui, c'est vrai que c'est rare. Et ça étonne Daniel. Parce que Daniel, c'est un mec, il se plante pas sur les expressions.
Jamais.
Là, on est donc 22h37 et on arrive à 22h39.
Moi, en fait, j'en ai marre. Parce que. En France, je pense qu'on a arrêté depuis longtemps de parler de foot et de jeu. Étant donné qu'on a gagné de cette façon-là et que de toute façon, c'est coulé dans le marbre définitivement.
Ça coule dans le marbre. Ça coule.
Alors, si tu veux,
marbre,
oui, c'est soit coulé dans le bronze, soit gravé dans le marbre. Mais, dans le marbre. Ou alors, tu peux aussi graver
bien,
un marbre.
On dit bien, Kazar, coulé dans le bronze.
Oui, non pas. Coulé, alors, quand tu coules un bronze, il faut être sur un scooter. Ça n'a rien à voir.
Jean-Michel, il dit Kazar.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle du grand absent. Le grand absent de ce match, évidemment, Antoine. Non, c'est le tranquille, le pauvre. C'est Eric Cantona. C'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui nous manque. Petite chanson, hommage pour toi, Antoine.
C'est pas l'idéal. On a mis un petit peu de temps à se mettre en mouvement, en rythme.
Quel enfer! Les bleus, c'est pire que quand on en concert.
Je pense qu'il y a un peu
plus. Les moches, on les a bien sus. Et ils nous pissent dessus. C'était carrément. Un porno allemand.
T'es sûr qu'on s'est fait cueillir à froid?
Sans grisou. Les bleus, c'est un peu du gars sans zizou. C'est un débrief de Ligue 1. Sans insulter Turpin. C'est une décision de la VAR. Sans insulter Fapa. On passera pas le premier tour si t'es pas là, Antoine. De la barrière à la roue, ce sera Jackie et Michel. Michou verte, une grosse saucisse enfoncée jusqu'au bout. Lélé, il a chauffé, s'il est en PLS. Sans toi, on est en détresse. Au milieu, c'est pas l'Argentine, c'est plus Argenteuil. Voir l'équipe de France féminine. On passera pas le premier tour si t'es pas là, Antoine. De Düsseldorf à Hambourg, ce sera la fête de la bière. Bouche ouverte, on servira du riz noir tous les jours. Mbappé ce samedi, il est déjà à Madrid. Mbouzi n'est rien au fond, Colo, il touche pas le ballon. Thuram en met pas une. Ils
sont perdants
les tribus.
On va quand même essayer de gagner.
Et Canto en a repris une. Et Canto en a repris une encore.
J'ai pas écouté.
Moi,
je cherche la rime avec Jackie et Michel, j'ai jamais trouvé. Hein. C'était juste pour le plaisir.
Bon, juste, il s'est fait plaisir.
C'est ça. Merci Julien.
Oui, c'est vrai.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Et dans une seconde, le brassard de capitaine en bleu. Est-ce que c'est si important que ça, 32-16 dans Rotten sans flamme, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme, c'est pour maintenant. Et oui, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour, on a fait une grande première heure. Voilà, c'était vraiment de qualité. On devait être avec Tony Vérel, mais il s'est fait enfermer. Donc on a appelé Pascal Olmeta et on remercie encore d'être aussi dispo.
Lui n'était pas enfermé.
Voilà, lui n'était pas enfermé.
Et
il sera peut-être après l'émission. Hein, parce que...
Encore une fois, on s'excuse pour les fans de Pascal. Pascal qui sont habitués à ces analyses d'habitude. Là, il n'a pas préparé comme d'habitude l'émission. Ah, vous ressentir un peu.
Il est un peu hésitant.
Non, mais les gars, c'est comme les pruneaux. Ça va, c'est tranquille.
Et Pascal.
Si on peut laisser tomber cette histoire de pruneaux, par contre, Pascal, merci.
Pascal, on embrasse Canto quand même, parce qu'il en a pris là.
Alors, Canto, il doit aller écouter le casar enchaîné.
Voilà, c'est pas bien, Julien. C'est pas bien, Julien.
Quand vous allez le voir.
Mais vous, pourquoi tu dis vous?
Et il est au-dessus de ça, il va pas régler ses comptes avec Julien Cazard. Comme Julien, il a d'autres choses à faire.
Si Jérôme, tu l'as attaqué.
Je l'ai attaqué. Oui, mais tu rigoles ou quoi? Je vais regarder ça. Il m'a tellement donné envie, je vais regarder sa série soir et je vais me faire le replay du match France-Chili.
Tu continues, Jérôme?
Non, je continue pas. Je te promets, c'est ce que je vais faire. Et on l'embrasse
bien sûr. Ouais. Dans cette deuxième heure, notre feuilleton au MPSG dimanche, le match, et tous les jours on en parle dans Rotten sans flamme. On sera tout à l'heure donc avec Fabrice Fiorez, qui a connu les deux clubs, les ambiances fougueuses, des règlements
de traite, il est là, il est bien le traite.
Ce sera tout à l'heure 19h30 dans Rotten sans flamme. À 19h45, le quiz Grand Chelem en cours pour Jérôme, une mini enceinte intelligente Google Nest à gagner. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Avant de débattre autour du capitana de Mbappé, on continue notre avant-match de France-Chili et on file au Vélodrome pour retrouver Jeannot Rességuier.
Oh là là, l'un
de nos envoyés spéciaux.
Salut Jeannot.
Salut Jeannot.
Salut tout le monde. Comment ça va, cher Rotten? Tout va bien ce soir?
On est en pleine forme.
On va bien, Jeannot.
Pleine forme.
J'ai entendu qu'on parlait de neutralité dans les tribunes du Vélodrome. C'est bien.
Ah oui,
c'est bien.
C'est bien. J'ai entendu ça. Mignan dans les buts, c'est le retour pour le gardien de but de l'AC Milan après ses soucis de dischio. Konaté avec Saliba au niveau de la charnière, ils ont déjà joué ensemble, c'était en Autriche, un partout en juin 2022. Théo Hernandez côté gauche, Klos le Marseillais côté droit, milieu de terrain Camavinga, Fofana et Tchouaméni, Mbappé avec le brassard de capitaine qu'il portera pour la 10e fois pour le maillot des Bleus, d'ailleurs il jouera en blanc ce soir, Giroud de retour titulaire dans l'axe et Colomouani sera sur le côté droit. 9 changements, 2 joueurs étaient présents au coup d'envoi contre l'Allemagne, Mbappé et Tchouaméni.
Merci Jeannot, on attend la compo officielle bien sûr dans les minutes qui viennent. Ouais. Mbappé sera bien capitaine.
Oui, il l'a dit.
Oui, Mbappé sera capitaine pour la dixième fois.
Alors ça tombe bien.
Il avait commencé contre la Grèce en septembre 2022 où il avait récupéré le brassard de capitaine. Et après, vous connaissez l'histoire.
Merci Jeannot, ça tombe bien parce que capitaine des Bleus, c'est toute une responsabilité.
Moi, président de la République, je ne serai pas chef de la majorité.
Maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous comptez, vous aurez la même liberté.
Pourquoi voulez-vous que ça change? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère.
Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France.
Qui l'a dit? Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive, responsable de rien.
Si vous attendez de Kylian qui hurle sur tout le monde, c'est pas Kylian non plus.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Certaines attitudes de Kylian Mbappé, qui n'a pas franchement remobilisé ses partenaires avec son statut de capitaine, statut qu'il a assumé en conf de presse, on l'a entendu hier, et sa légitimité comme capitaine a été défendue par son sélectionneur Didier Deschamps.
Ah bon ? Des analyses radicales par moment. Un match, il balaye tout. Je connais les joueurs, c'est pas qu'on a été défaillants. Peu importe le leadership, si vous attendez de Kylian qui hurle sur tout le monde, c'est pas Kylian non plus. Il est devenu capitaine, certes. S'il y a à montrer la voie, c'est de par ce qu'il fait sur le terrain, même s'il est amené à s'exprimer. Non. Quand on est moins bien, c'est plus le fait de se parler entre les lignes.
Voilà, de se parler sur le moment et pas de faire des grands gestes, etc., ce genre d'attitude. Alors, est-ce que le capitana en bleu, finalement, c'est si important? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre, ou est-ce que, finalement, on met pas beaucoup d'espoir dans ce rôle-là de capitaine et ça va pas si loin que ça? Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais heureusement qu'il faut mettre le capitana tout en haut. Capitaine de l'équipe de France. On parlait de fierté dans la première heure avec ces fameux sifflets ou pas qui doivent exister ou pas. Bon, peu importe qu'on soit pas d'accord. Mais le capitaine d'équipe de France, c'est quand même quelque chose d'avoir le brassard de ta sélection.
Contre-exemple, c'est Hugo Lloris.
Mais contre-exemple de quoi?
Tu l'as eu pendant 12 ans. On peut pas dire que ce soit un capitaine non plus.
Mais tu plaisantes ou quoi?
Un capitaine lisse. Peut-être t'étais le premier à le dire pendant des années.
Mais je te parle pas de ça, moi. Je te dis l'importance du rôle de capitana. Le capitaine, c'est hyper important. C'est ta question.
Jean-Louis.
Oui.
Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec le capitaine? Non, on n'en fait pas trop parce que le capitaine de l'équipe de France, il doit être à la hauteur à tous les niveaux. Alors en effet, moi, il y a des capitaines qui me plaisent parce qu'ils prennent la parole, ils disent des trucs. Le Hugo Lloris, c'est exactement ce que Didier Deschamps était et est. C'est-à-dire qu'il dit pas les choses. Voilà, c'est tout lisse. On aborde tous les sujets, mais je réponds, je botte en touche. Il était très bien, la langue de bois. Il a, c'est à merveille, Hugo. Hein, tu vois, autant moi, je voyais plutôt ses performances et le grand gardien qu'il a été. Autant les confs de presse, en effet, on n'avait pas envie de les entendre. Et c'est ce que j'aime dans le capitanat, le choix de capitanat de Kylian Mbappé. Le problème, je vais te dire, c'est que si tu veux vraiment que je te dise ce que je pense,
ah bah oui,
c'est
que bien, oui.
Ouais, bah Didier Deschamps, il est il a fait contre nature. Tu vois. Et ben oui, parce que Didier, je le connais très bien. Et quand je l'entends parler comme il parle aujourd'hui, je pense qu'il se fout de notre tronche. D'accord? Alors moi, j'aimerais bien qu'il me le dise là, parce que je me rappelle des fameux discours dans le vestiaire et qu'il a eu après. Hein, tu vois, il a jamais changé sa stratégie. Les capitaines ont toujours été plus ou moins ressemblants. Quand tu prends à l'AS Monaco, tu prends après à l'Olympique de Marseille en club, à la Juve, je sais plus qui l'avait comme capitaine, mais il y avait des grands joueurs à la Juve à l'époque et ils étaient en deuxième division. Mais après, en équipe de France, Hugo Lloris, autant de temps, t'as pas un capitaine comme Hugo Lloris pour derrière passer au capitaine Kylian Mbappé, parce que tu sais que tu vas pas le maîtriser. Et encore, il y arrive. Et c'est pour ça que je te dis que je suis un peu déçu du capitaine Kylian Mbappé. Parce que la franchise qu'il a toujours eue, je trouve que sur les derniers temps et les derniers mois, pour X raisons, mais c'est pas à moi de l'expliquer, c'est à lui de l'expliquer, il s'est un peu perdu. Tu vois, il fait des réponses qui vont dans le sens du vent. Il prend ses responsabilités après l'échec de samedi. Bah, encore heureux. De toute façon, tu peux pas dire que t'as été bon. T'as été mauvais, comme la plupart. Vous avez été mauvais et il faut l'assumer. Et lui a dit oui, j'assume mon rôle. Non, tu l'as pas toujours assumé. La preuve, c'est que t'es venu que 4 ou 5 fois depuis que t'es capitaine. C'est-à-dire une fois sur deux en conférence de presse d'avant-match. Alors qu'Hugo Lloris, c'était un 100%. Quasiment. Donc, excuse-moi de penser que Didier Deschamps, en effet, a dénaturé un peu ce rôle de capitaine après, comme il le veut.
Après, il peut évoluer aussi, Didier Deschamps.
Non, là-dessus, je peux te dire que j'ai la certitude. Lui, il dit on n'a pas de certitude dans le foot, mais moi, j'ai la certitude que Didier, il va pas évoluer.
Hein. Bah, non, mais là, avec Mbappé, il a peut-être évolué.
Non, mais c'est politique, vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Ça devait être Griezmann, ça devait être d'autres. Eh ben, il a donné à Kylian Mbappé parce qu'il voulait pas se le mettre à dos. Voilà, il faut être très clair, c'est comme ça.
Jean-Michel, t'es d'accord avec ce que dit Jérôme?
Jérôme, tu es en train de résumer le rôle du capitaine de l'équipe de France aux conférences de presse. Mais les conférences de presse, ce n'est que la partie émergée de la
Bah, c'est encore pire le reste. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps, mais vas-y, on en parlera après.
Et le capitaine, le rôle du capitaine dans une équipe de France où il y a des joueurs qui viennent de 10 clubs, c'est d'essayer d'être consensuel, d'essayer de mettre un petit peu de liant dans l'attitude, dans les remises en place, dans quelques paroles qui doivent être dites. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Kylian Mbappé? Est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il parle avec ses coéquipiers? Est-ce qu'il parle avec ses joueurs? S'il ne le fait pas, c'est pas un bon capitaine.
Ouais, non, mais s'il le fait, Jean-Michel, mais est-ce que sa personnalité montre tout ce que tu viens de dire sur le rôle du capitanat? Non.
Mais non. Le rôle du capitaine, c'est avant les matchs de dire 2-3 mots à chaque joueur, à ceux notamment qui en ont besoin.
Ça, effectivement, on peut pas le vérifier, Jean-Michel, mais ce qu'on peut vérifier, c'est ce qu'il a fait sur le terrain contre l'Allemagne. Est-ce qu'un capitaine devrait faire plus que ce qu'il a fait sur le terrain contre l'Allemagne?
Heureusement, dans l'armée.
Heureusement, le premier qui a failli contre l'Allemagne en termes juste d'attitude, c'est lui. Mais c'est pas possible quand t'as le rôle de capitaine, les gars. Non, mais je suis désolé. On peut pas minimiser le brassard de capitaine.
Jean-Michel, t'es d'accord avec ça sur l'Allemagne? Sur le match de l'Allemagne?
Comment dirais-je, chasser le naturel, il revient au galop. On sait quand même que Kylian Mbappé, lorsqu'il reçoit pas un ballon qu'il doit recevoir, il est pas content et il le manifeste de façon ostensible.
Et ça, c'est pas une attitude de capitaine.
Et bah donc ça résume tout ce que tu viens de dire, Jean-Michel.
Alors on a un problème. la conclusion de ce que vous dites.
On a un problème, c'est que
tu es capitaine, tu ne dois pas le faire. Tu dois être toujours dans une attitude positive, tu dois être toujours dans une attitude constructive. Et Dieu sait si je connais le rôle où j'étais parfois insupportable, imbuvable avec mes coéquipiers, ouais. Mais tu peux leur demander comment ça s'est passé pendant et comment ça s'est passé après. Tous te diront que pendant le match, je disais les choses comme elles devaient être prononcées, oui. Et qu'après le match, on effaçait tout et on recommençait pour le match d'après. Mmh. Voilà, c'est le capitaine, il doit être à fond dans le match, il doit être à fond avec ses coéquipiers, il doit être à fond, il est tout seul.
Et lever les bras quand on ne reçoit pas un ballon, ça, c'est pas un truc qui motive les autres. Ça fait pas partie du bagage de capitaine.
Si tu veux bien comprendre, Jean-Louis, tu donnes le brassard à un gardien de but. Et tu as tout compris.
Bah oui.
C'est tout.
Bah hein. Oui, non, c'est vrai, t'as raison.
Jean-Louis, si un capitaine fait ça, c'est terrifiant. Parce que même un joueur de champ, même, il doit simplement dire, il doit être déçu. Bon, gentiment dire à son coéquipier, t'aurais pu me la mettre.
Toi, t'as jamais dit à un partenaire, ta passe là, elle est moisie, il faut faire mieux.
Mais jamais.
Bon, d'accord, ok.
Mais jamais.
Ok.
Mais Jean-Michel,
ça n'existe pas.
Attends, Pascal, mais même attends, on est gardien. Pourquoi donner le brassard au gardien, ça change tout?
Je me suis engueulé, je me suis engueulé par Ivan Kurkovic une fois. Il avait raison, et alors que j'étais capitaine, et il avait raison. Et j'ai mis mon mouchoir sur mon amour propre et puis on est reparti en deuxième mi-temps.
Ok.
Voilà.
Au moins une fois.
Pascal.
Oh Pascal.
Ouais, au moins mais le dernier rempart, le général d'une équipe, c'est le gardien de but. Il voit tout et il est propre à lui-même. Il a son caractère. Il peut se permettre de dire à tel et tel joueur ce qui se passe dans les vestiaires.
C'est mais il est loin de l'action pendant le match quand même.
Non, il n'est pas loin, Jean-Louis.
Là, c'est géographique, Pascal, quand même.
Non, normalement, il est loin. 100 mètres de l'autre, oui.
Mais Pascal, oui.
Il est loin de l'arbitre. Il ne peut pas replacer des partenaires, etc.
Attendez, il y a différents capitaines. Là, je rejoins Pascal. Ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais les partenaires, si tu les places jusqu'à la ligne centrale, c'est fini. Il n'y a plus à t'occuper de
Pascal. Et puis, Pascal, il y a une chose, quand tu mets gardien, et tu as raison, tu as une vision globale sur le terrain. Et t'as même d'analyse qui est supérieure certainement aux joueurs de champ les secondes sont concernés par des choses. Ça veut pas dire que le gardien est déconcentré et pense à autre chose, mais il a une vue d'ensemble. Et encore une fois, c'est pas parce que t'as le brassard que tu dois faire l'entraîneur, c'est-à-dire aller prendre la main de ton coéquipier, le replacer là. Non, il faut rester focalisé sur ton match aussi. Moi, je dis juste que c'est déjà la base, c'est l'attitude que tu donnes pour ton équipe. Servir d'exemple. Mmh. Tu dois pas montrer tes faiblesses.
Le meilleur exemple,
Jérôme,
le meilleur exemple, tu sais lequel le sait, c'est que un défenseur, un milieu de terrain ou qui tu veux, il fait une erreur. Bon, ben c'est pas grave. Mmh. Mais le gardien, s'il fait une erreur, c'est lui.
Bah, c'est très grave.
C'est lui. Mmh. C'est très grave. Pascal, alors lui, il est là pour pallier à toute erreur de son équipe.
Il a fait 15 arrêts décisifs et tu l'oublies l'erreur.
Et puis je vais vous dire.
Il faudrait mettre Meillon capitaine.
Quand tu mets un joueur comme Kylian Mbappé capitaine, tu mets un joueur qui est égoïste. C'est comme ça. Le rôle qu'il a, il veut marquer des buts, il veut faire tourner le compteur, il veut être décisif. Quand il l'est pas, il fait la gueule. D'accord. Donc t'as des entraîneurs qui acceptent ce rôle de capitaine. Mais Didier Deschamps, je vous donne, mais vraiment. Mais à 100% que c'est comme ça, il déteste ça. Il veut qu'on pense collectif.
Bon, okay.
D'accord. Alors, à travers les discours, comme vous me dites, dans le vestiaire, qui prennent la parole, on n'en a rien à faire de ça.
Michel, laissez-en placer une.
Oui.
Jérôme, je serais curieux de savoir, lorsqu'il a désigné Kylian Mbappé comme capitaine, s'il lui a demandé ce qu'il attendait de lui, ce qu'il espérait de lui, ce que Mbappé devait faire pour être un bon capitaine.
J'imagine que oui.
Mais je serais curieux.
Mais même pas.
Je serais curieux de savoir s'il y a eu une discussion sur cet objectif, ces objectifs.
Mais Jean-Michel, on lui demandera. Jean-Michel, regarde, avant de faire une petite pause, Jean-Michel, tu crois vraiment que si Didier avait dit ce qu'il voulait réellement du capitaine Kylian Mbappé,
non, il peut poser la question à Mbappé. Il peut lui dire, Kylian, comment tu vois ton rôle de capitaine? Qu'est-ce que tu comptes faire?
Mais il lui a rien demandé, il lui a donné parce que c'était politique. Moi, je dis pas qu'il le mérite pas. Je dis juste que Didier, par rapport à sa vision de ce capitana, c'est et du football, ça va pas du tout avec sa façon de faire.
Si un général ne demande pas à son capitaine ce qu'il pense faire, je pense qu'il y a quand même un petit problème
On continue le débat dans une seconde. Alors le débat est reformulé parce que c'est la discussion. Est-ce que Mbappé c'est un bon capitaine? Voilà, on est parti là-dessus. 32-16. On vous attend. On vous donne la parole dans une seconde. C'est Roten sans flamme sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h18 sur RMC. On est là, on est bien. On continue de parler de Kylian Mbappé, du capitaine Kylian Mbappé en équipe de France. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un bon capitaine? On va poser la question à vous, chers auditeurs, et puis aussi à Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta, à Jean-Louis Tour. On est là jusqu'à 20h comme tous les jours. Restez bien avec nous. On route pour un grand chelem, hein, le quiz de Julien Cazard à 18h, à 19h45.
Ouais, mais c'est pas le plus important. Le plus important, non, c'est les retrouvailles avec Fabrice Fiorez dans notre spécial OMPSG.
Ah, oui,
c'est dans 10 minutes. Ne ratez pas ce grand moment dans Roten sans flamme. Mbappé est-il un bon capitaine?
Oui.
On a Hamza qui nous rejoint.
Salut Hamza.
Bah oui, non, c'est ça maintenant.
Salut Hamza.
Salut à vous.
Bienvenue Hamza.
Salut Hamza.
Merci.
Bon, ça va.
Merci,
alors, est-ce que on parlait là, on a bifurqué un peu sur Kylian Mbappé, forcément, c'est le capitaine de l'équipe de France. Est-ce que toi, tu aimes le capitaine Mbappé en équipe de France?
Bah, dans un premier temps, j'aime le joueur. Moi, je suis supporter du PSG, bien qu'il y a tous ses déboires autour de lui. Mais ce que je disais à votre standardiste, ça n'a pas de la gueule, capitaine en équipe de France, pour une petite raison. Je trouve que tout l'aura médiatique, tout le tapage qu'il y a autour de lui, et surtout son jeune âge, même si avec lui, il ne faut pas parler d'âge, je trouve que je ne suis pas fan de Mbappé en capitaine d'équipe de France, bah, pour ces raisons-là. Mais en même temps, je sais que derrière, il n'y a personne.
Il n'y
a pas vraiment. Griezmann, il revient doucement, je trouve. Bon, je suis pas d'accord à 100%.
C'est-à-dire,
passage au Barça, ça l'a un peu. On était beaucoup à être déçus de son passage au Barça et.
Ouais, et puis ça se ressentait aussi en équipe de France. Mais
ouais, il a manqué
il y a 3 ans là. Mais quand même là, pour aller dans le sens de Jean-Louis, Hamza, Didier Deschamps, quand même, il a fait preuve de plus de. C'est même pas une confiance qu'il a en Antoine Griezmann. Tu vois, c'est son joueur relais. Il l'a montré. Hein, plus de 80 sélections de suite.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que si on est amené à comparer avec les autres nations, on fait partie des plus grandes nations européennes, voire mondiales, on peut se permettre de le dire.
Bah oui.
Si on prend l'exemple de l'Angleterre, ça va un peu mieux avec Southgate, ou si sans exorcer son nom, mais c'est ce que je disais à votre standardiste. Si Harry Kane est blessé, admettons, en Angleterre, on sait que derrière, même Maguire qui a des gros déboires et qui a des problèmes à Manchester, on peut l'appeler. S'il n'est pas là, on a Kyle Walker. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a en équipe de France. Si Mbappé, déjà je suis pas hyper fan que Mbappé soit capitaine, il est même pas capitaine au PSG.
Ouais.
Et il y a eu tout un souci avec Campos pour le mettre capitaine au PSG, puis on le met directement capitaine en équipe. C'est vraiment un choix par défaut en fait. C'est qu'on n'a pas forcément quelqu'un d'autre.
Mais moi je suis pas sûr Hamza, c'est pas un choix par défaut, c'est un choix politique. D'accord? Donc parce
tout
que Kylian Mbappé voulait le brassard.
Et
il faut pas zoiler la face, il voulait le brassard parce que il a ce côté égoïste que ont la plupart des grands joueurs et des grands buteurs. Ah bah, d'accord?
Si tu es égoïste, c'est la raison principale, c'est parce que tu veux le brassard, et évidemment c'est une mauvaise raison.
Mais Jean-Michel, il faut pas se leurrer. Pourquoi il a voulu le brassard? Pourquoi il s'est battu pour avoir le brassard? Pourquoi il a communiqué dans ce sens-là?
C'est une question d'image pour être celui qui soulève la coupe.
Mais bien sûr, mais les gars, alors après qu'il se force collectivement à parler avec tout le monde parce que il fait la transition entre la nouvelle génération et l'ancienne, il est très bien placé pour ça. OK, il y a pas de souci. Je pense que dans le groupe, la plupart l'aiment bien.
Kylian. Après, il y a le souci de comportement de ces joueurs-là. Dire quand il est bien, il y a pas de souci. Quand il est moins bien, qu'il se fait critiquer, qu'il marque pas sur des matchs, il y a de la frustration qui s'installe et automatiquement, bah, ça se ressent dans son rôle de capitaine. Et ça, c'est. Et puis après, il y a le relais avec Didier Deschamps. Comment il lui fait passer des messages? Parce que le capitaine, c'est aussi être le premier
après
relais.
Ce que je vous écoutais, les relais, il y a le bâton. Il y a longtemps que le bâton mais est
s'il
tombé.
Il avait la possibilité, je suis désolé, Didier, de donner le brassard déjà à d'autres joueurs, en commençant par Antoine Griezmann.
Pas sûr.
Mais Hamza, Tchouaméni, et c'est sa marque de fabrique devant la défense. Oui. Didier Deschamps était capitaine comme ça. Il lui fait extrêmement confiance à Tchouaméni. Je te dis pas que Tchouaméni devait.
Rabiot alors.
Ah non, parce qu'on parlait d'attitude. Arrête avec Rabiot. Et Rabiot, il a osé.
En tant que supporter du PSG, avec les soucis que Rabiot a eu, je vais pas dire que Rabiot mérite plus d'avoir que le brassard que Mbappé. Moi, je pense que Mbappé, dans deux ans, il aurait pu être un très bon, très bon capitaine. C'est son âge, moi, où il y a un vrai problème. Et dès que je me compare aux autres nations, Marquinhos au Brésil, c'est un autre exemple. Mais si on prend vraiment l'Allemagne, vous avez Gundogan. Vous parlez de relais, un relais de Pep Guardiola pendant de nombreuses années au même niveau que De Bruyne, si ce n'est plus. Et donc, lorsque je me compare avec les autres nations, bah, je me dis qu'on n'est pas si bien loti que ça. Et on aurait pu patienter un peu avant de lui donner. Mais le problème, encore une fois, pour toi, il y a Griezmann. Mais pour moi, Griezmann, c'était pas.
Non, mais t'avais Griezmann, t'avais Tchouaméni, t'avais un défenseur. Alors, bien sûr que la charnière, elle change beaucoup. Mais un garçon comme Konaté, vous croyez pas que Konaté est un titulaire en puissance?
Jérôme, je t'ai beaucoup aimé en tant que joueur. Tu m'as fait vibrer. Rabiot, il passe même avant.
Rabiot a réussi à être capitaine à la Juve quand même.
On reste sur le sujet déjà
que je trouve que c'est pas normal qu'il soit titulaire en équipe de France, alors vous n'allez pas me le mettre capitaine, s'il vous plaît.
Merci Hamza d'être venu au
milieu de terrain. Il marque quasiment jamais, il donne jamais de passe décisive, mais c'est normal. Rabiot capitaine,
Gendouzi,
il y avait qu'à mettre Samba et tu enlevais le doudou.
Maignan, par rapport à ses prestations, il aurait pu prendre le relais en effet du Golioris.
Mais il n'y a pas de débat, c'était Griezmann. Si c'est pas Mbappé, c'est Griezmann. Enfin...
Oui, mais sauf que t'as raison. Le problème, il vient du choix politique, Jean-Louis.
Oui,
et pourquoi il l'a pas donné à Griezmann? C'est parce s'il l'avait pas donné à Mbappé, je suis sûr qu'il l'aurait pas donné à Griezmann.
Alors ça.
Parce que la frustration, parce que les deux conflits d'intérêts et tout ça.
Il n'y a pas de tranchée entre les deux.
Oui. Tu sais. Et c'était plus facile de faire avaler la pilule à Antoine Griezmann qu'à Kylian Mbappé. Lucas Hernandez. Exactement. Il a l'âme d'un. Après le seul souci, c'est il fallait que le mec soit simple, absolument titulaire. Donc dans ces cas-là, tu donnes au gardien de but.
Merci Hamza. Mike Maignan. Voilà. Merci Hamza, à très bientôt. Dans une seconde, Fabrice Fiorez, notre invité exceptionnel. Et restez avec nous, puisqu'à la fin du feuilleton OM-PSG, si vous êtes à Marseille et que vous n'avez pas de place pour dimanche, on aura peut-être une bonne nouvelle pour vous, donc restez bien là, à l'écoute. Sachez qu'on suit également Géorgie-Grèce, puisqu'il y a un billet pour l'Euro qui se joue en ce moment pour le vainqueur de cette rencontre. La Géorgie de Willy Sagnol, il y a 0-0 pour l'instant, mais c'est dur pour Willy et son équipe.
C'est dur, il y a 0-0.
Ah mais c'est dur, ils subissent.
Tu regardes le match, toi.
Je garde un œil, tu sais, on surveille tout, Jérôme.
C'est bien.
Dans une seconde, donc Fabrice Fiorez, l'ancien joueur de l'OM et du PSG,
écrasé tout
dans le feuilleton OM-PSG.
Bravo.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, on est là, on est bien. Dernière demi-heure de Roten sans flamme avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta et un invité rare dans les médias. Et oui, rare tout court. Et ça me fait plaisir de l'entendre. Il est là déjà, non?
Alors il arrive dans une seconde. Juste vous dire, puisqu'on va lancer notre feuilleton OM-PSG, restez avec nous. Dans 10 minutes, je vous explique comment aller au Vélodrome dimanche pour assister au match. Cadeau exceptionnel. Autre cadeau dans le quiz tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire en envoyant top cette fois au 732-16 pour gagner une mini enceinte intelligente Google Nest. Donc inscrivez-vous pour le quiz tout à l'heure. Mais on y va, c'est dimanche le grand moment.
Oh là là, c'est mauvais.
Ah, ça, c'est le mauvais geste du match. Carton rouge logique pour Sylvain Armand. Toletta dans la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel Toletta!
Merci Paris Saint-Germain.
RMC OM PSG.
J-5. Merci Paris Saint-Germain.
Tous les soirs dans Rotten sans flamme, on lance Marseille-PSG. Il en était avec Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'OM. Ce soir, on est donc avec quelqu'un qui a connu les deux clubs, Paris-Marseille. Ça a été houleux en plus, ce passage de l'un à l'autre. Fabrice Fiorez est dans Rotten sans flamme.
Salut Fabrice.
Salut Jérôme.
Ça va?
Salut à tous.
T'es en forme?
Ça va et toi?
Bah écoute, content de t'avoir dans l'émission. Hein.
Ça va, Fufio?
Ouais, bah écoute. Ouais, Pascal, ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait plaisir. Je garde que des bons souvenirs avec toi, j'avais 18 ans.
À Lyon? Eh oui, mon ami.
Eh ouais, Pascal, je l'adore. Pascal, c'est un mec, j'apporte, bah, il y a beaucoup d'estime.
N'en dis pas trop, Fiofio, parce que.
Il est obligé à laver ses chaussures ou aller chercher les plombs.
Il y a la BAC de la 92 qui nous écoute. N'en dis pas trop.
Non, mais tu sais ce que je pense de toi. Moi, je l'ai connu à 18 ans. Et c'était le gardien de l'Olympique lyonnais. Et moi, je faisais mes classes et tout. Et franchement,
le gamin,
c'était
le
quelqu'un.
Il n'était pas trop dur avec les jeunes. Il ne forçait pas à aller chercher les plots et à nettoyer ses chaussures.
Ouais.
Ouais, mais je pense que justement, ces choses-là, ça manque aujourd'hui. Parce que moi, je sais que je cirais les chaussures même. Donc, c'est peut-être des choses qu'il faudrait remettre au goût du jour. Hein.
Si c'était que les chaussures qu'il fallait nettoyer, Fiofio.
Bon, allez.
Ouais,
allez.
Je sais. Tu te rappelles, on peut pas dire toutes les anecdotes. Hein,
ne balance pas.
Puis le pousse pas, Fabrice, le pousse pas à raconter des choses parce que sinon il va les dire, lui. Donc,
D'accord.
Non, il y a Jean-Michel Larqui aussi qui est là. Fabrice.
Bonjour Jean-Michel.
Il y a plein de choses à aborder.
Je passe devant son village natal assez souvent d'ailleurs.
Ah,
c'est gentil.
Village natal qui est à Chambéry? Non.
Non, après
si, Chambéry. C'est ça.
Ouais. Après Chambéry.
Mmh. Bon, très bien.
Ouais,
merci.
C'est en Maurienne. Ouais. En Maurienne. Voilà.
Alors, avec Fabrice, on va forcément parler de sa
carrière.
De la
trahison ou
Jérôme a dit c'est Fabrice. Le prêtre qui nous rejoint. Mais bon.
Non, mais Jérôme, il a besoin de faire le buzz quand même. C'est normal, c'est son émission. Faut le laisser un peu parler. Mais bon, Jérôme, il a oublié quand même qu'on était ensemble et les choses, il les connaît normalement. Mais après, il est passé maintenant de l'autre côté. Donc, c'est peut-être qu'il peut pas en parler.
Pour ceux qui ne se rappellent pas, donc c'était il y a 20 ans. Fabrice fait deux saisons au PSG, saison 2000, de 2002 à 2004. Et donc, à l'été 2004, quand Jérôme arrive après sa grosse saison à Monaco, et ben Fabrice, à la fin de l'été, vous partez à Marseille.
En fait, c'est ça, exactement.
Ah oui.
Fabrice, moi, j'ai pas oublié du tout. Au contraire, tu vois, quand je parle de trahison, de traite et tout, je sais très bien que Vaïdali Lozic et les dirigeants sont aussi responsables de ton départ à Marseille. Moi, je parlais juste.
Ça me fait plaisir que tu le dises quand même.
Non. Mais de toute façon, j'ai rien à cacher et je suis pas là pour faire le buzz comme tu le dis. Le seul truc, c'est que pour un Parisien comme moi, c'est sûr que j'ai jamais compris, et c'est pour ça que c'est bien de t'avoir et que tu nous expliques ce choix, parce que je trouve que c'est très compliqué déjà de s'identifier à un des deux clubs, que tu sois à Marseille ou que tu sois à Paris. Ce qui était ton cas à Paris, c'est vrai que les supporters, tout ça, et on avait l'impression que tu t'identifiais vraiment au Paris Saint-Germain, et c'était pas une surprise de toute façon vu les performances que tu faisais, mais que c'est très compliqué derrière de retourner l'opinion publique. Donc comment tu l'as vécu, toi, ce changement? Est-ce que avec le recul, c'est un regret?
Non, franchement, non, mais j'ai la chance aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous l'avez dit, je suis pas dans les médias ou je suis nulle part dans le monde du football. Et d'ailleurs, je suis très rarement le foot. C'est parce que moi, j'ai pas besoin, entre guillemets, de ça. Et je suis passé à autre chose. Et je suis très heureux aujourd'hui. Maintenant, je me suis rendu compte d'une chose, certes, c'est que dans le milieu du foot, comme peut-être dans d'autres milieux, le problème, c'est que l'hypocrisie, les faux culs, en fait, ils ont pas leur, du moins, malheureusement, ils ont leur place et moi j'avais pas la mienne. Donc voilà, parce que quand on dit les choses, on dit la vérité, parce que
tu
quand on a
qui,
un coach. De putain, coach, merde, Fiorez, moi, donner valorisation à toi. Toi, ça, partir, vrai. Moi, vomir, merde, Fiorez. Ça, c'est sûr que.
C'est ah, mais vous tenez tous l'imitation, c'est magnifique. Mais pourquoi là, mais c'est là, lui qui est responsable de votre départ à Marseille. Racontez-nous, Fabrice.
C'est lui qui est responsable, parce que moi, je vais vous expliquer. Je vais essayer de faire court, parce que sinon, Jérôme, tu sais, ton émission, il n'y aura pas assez de temps pour moi.
Non, ouais, c'est vrai. Mais on a le temps. Vas-y.
Malheureusement, il aurait fallu me donner un peu plus de temps pour dire vraiment toutes les vérités. Mais bon, un jour ou l'autre, elles sortiront bien. Mais faut pas oublier, oui, que ce coach Vahid... Non, mais
tu peux les dire, t'as le temps. Hein.
Ah non, mais c'est que ce coach Vahid, ce qu'il faut pas oublier, je pense que Jérôme, tu vas pas me contredire, vu que t'étais avec moi.
Non.
C'est qu'à un moment, il a voulu un capitaine. Et il a cherché un capitaine. Il a commencé par Pedro Paoletta à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Pedro a refusé.
Exact.
Après, il y a eu un mec qui s'appelle apparemment Fabrice Fiorez, qui est moi. Et j'ai refusé. Mais moi, je vais vous dire pourquoi j'ai refusé. Parce que, en fait, pour être le capitaine du club du Paris Saint-Germain à l'époque de coach Vahid, il fallait lui répéter tout ce qui se passait dans le vestiaire.
Ah.
Donc, le souci, c'est que moi, je suis savoyard. Et puis, j'ai pas eu l'habitude de répéter. Et donc, malheureusement, j'ai refusé. Et puis, quand j'ai refusé, c'est sûr que coach Vahid, il était pas content parce que coach Vahid, on peut pas lui refuser quelque chose. Et donc, malheureusement. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est que moi, il m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, hein, concrètement, pour résumer l'histoire, parce que on en passe des vertes et des pans-murs. Et donc, du coup, après, il a évidemment appelé mon agent, et puis concrètement, il m'a fait comprendre que j'allais jouer en CFA. Le seul regret, pour répondre à ta question, Jérôme, justement, du regret, tu vois, le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, peut-être, et je dis bien peut-être parce que pour moi, j'en ai pas, c'est que j'aurais dû faire un bras de fer contre lui. Parce que moi, j'étais persuadé de toute façon qu'il allait pas finir la saison. Parce que quand on a affaire à un entraîneur comme ça, qui quand en plus à l'époque on gagnait, il disait j'ai gagné. Et quand on perdait, je sais pas si tu te rappelles, Jérôme, il disait ils ont perdu. Moi, pour moi, c'est pas digne d'être un entraîneur.
Alors j'ai deux questions à vous entendre. Déjà, qui est devenu capitaine du PSG cette saison-là?
C'est Pierre Fanfan.
Bon voilà.
C'était
d'accord.
Pierre Fanfan. Les gars, ça c'est rigolo.
Qui a fini syndicat à l'UNFP.
Pourquoi c'est rigolo, Fabrice?
Non, c'est rigolo parce que justement vous voulez rebondir sur le fait que je vous ai dit j'avais refusé d'être la coupe.
Eh oui, c'est ça.
Mais Fabrice, tu vois, moi je vais pas que te laisser parler. Je confirme tout ce que tu disais. Et pour preuve, c'est bien déjà que tu dises ta vérité parce que moi je l'avais expliqué aussi.
C'est la vérité.
La vérité. C'est aussi la mienne, tu vois. Donc c'est pour ça que je confirme tout ce que t'as dit et que en plus de ça, il faut savoir que pour te dire que José Pierre Fanfan qui a été mis capitaine, il y a eu un problème sur cette année-là, sur le premier match du championnat, on jouait à Rennes, je me souviens Rennes-PSG, il y a eu des accords qui n'étaient pas passés pour les primes les joueurs n'étaient pas d'accord et que comme par hasard, coach Vahid il nous a dit, si le capitaine il est au courant, il a tout signé
d'accord.
Et dans notre dos, donc voilà, donc en gros c'est ce qui s'est passé.
Je te remercie, ça fait plaisir de l'entendre parce que moi je te cache pas que j'ai été quand même la victime de tout ça et après c'est vrai que quand on est joueur de foot, malheureusement on n'est peut-être pas prêt à autant entre guillemets de haine de toutes ces choses qui suivent après quoi.
Là je comprends bien qu'il y a eu clash avec Vahid Ali Lodi, que c'était pas possible de continuer et que le PSG a pas été très clair, mais pourquoi être allé à Marseille?
Pourquoi je suis arrivé à Marseille?
Pourquoi choisir l'ennemi?
Parce que c'était le famille à Marseille, c'était la famille.
Ouais Fabrice, c'est assez impressionnant
mais après moi Marseille pourquoi? Parce que je vais aussi essayer de la faire la plus courte possible, c'est que moi j'étais évidemment en relation avec mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui était Frédéric Déhu, comme tout le monde le savait, parce que aujourd'hui je pense que c'est plus une surprise, et lui venait de signer à l'OM, donc du coup on était en contact évidemment, et moi le problème c'est qu'on s'appelait pratiquement tous les jours, et du coup qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'histoire justement avec Vahid, j'avais eu Fred au téléphone, et moi Fred je lui ai dit oh putain, je crois que j'aurais jamais dû refuser le capitana, je lui explique l'histoire comme elle s'est passée quoi. Et puis on en est resté là, et sauf que le lendemain après ça a dû se savoir parce que comme on sait que dans le milieu tout se sait, et donc du coup José, en fait c'était José Anigo pardon à l'époque l'entraîneur, et en fait ils avaient joué je crois à l'époque Marseille contre, je veux pas dire de bêtises mais si mes souvenirs sont bons, c'était contre Metz et ils jouaient en 3-5-2 et je crois que c'était Franck justement Ribéry, qui jouait, je crois, à l'époque à Metz. Et je sais pas s'il y a pas eu 3-0. Je veux dire, je veux pas dire de bêtises, mais vous me confirmez.
Oui, c'est ça, exactement, c'est ça.
Mais en tout cas, il y a eu 3-0 à l'OM. Mmh. Et notamment, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que José a voulu changer son 3-5-2 pour un 4-4-2. Et le seul problème, et c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre, c'est que des concours de circonstances, en tout cas sur les décisions ou les changements qu'il y a eu, c'est que en fait, donc ils cherchaient un milieu droit, ouais, parce qu'à gauche ils avaient le pendant, c'était Bruno Chéroux. Mmh. Bon, je sais pas si vous vous rappelez.
Ouais, bien sûr.
Mmh. Et donc, ils cherchaient un milieu droit, justement.
Pour équilibrer.
Donc ça s'est fait. Mais est-ce que
Mais attendez. Et donc pour équilibrer pour finir,
Fred
dit justement à José. Fred dit à José, je crois qu'il y a le bordel à Paris et Fio, ils sont en train de le pousser par la sortie. Voilà comment le début s'est passé. Il n'y a aucune préméditation. Il n'y a rien. Et je n'ai pas pris un euro de plus en partant de Paris à Marseille. Donc ça, il faut bien le préciser aussi.
Est-ce que ça a été ta plus grosse erreur, Fio?
De pas avoir pris plus d'un euro, ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, mais moi, je te le dis. Ça, oui, parce que vu comment ils m'ont comment ils m'ont intégré, je peux te dire que franchement, j'aurais dû prendre tout ce que j'aurais dû prendre. Et là, je me serais dit, vous savez.
Mais pourquoi
quoi,
ça s'est mal passé à Marseille?
Non, ça s'est super bien passé. Mais je crois que j'ai fini en équipe de France, quoi.
Non, mais au départ. Non, mais pourquoi ça s'est mal passé? Ils t'ont mal intégré, tu dis?
Non, mais moi, ils m'ont laissé ils m'ont jeté dans la gueule du loup. Le problème, c'est que j'ai atterri là-bas. Alors, attention, je donne pas la faute qu'à eux. Moi, j'ai été peut-être maladroit aussi. Mon numéro de prédilection, c'était le 11. Mmh. Donc, c'est sûr que moi, têtu comme j'étais, j'ai voulu prendre le 11. Bon, malheureusement, ou en tout cas, je veux dire, celui qui avait le 11 et qui a une statue à l'OM, c'était Didier Drogba. Donc, Didier que j'adore aussi. Et donc, c'est vrai que prendre après son maillot, c'est compliqué.
Oui. Vous faites 6 mois, en gros, comme titulaire à Marseille. Après, ça se dégrade, des prêts et tout. Et dans ces 6 mois,
j'étais obligé de me faire jouer qu'à l'extérieur. Je pouvais plus jouer à domicile tellement que c'était compliqué et que je déstabilisais l'équipe parce qu'à chaque toucher de balle, même au Vélodrome, on me sifflait.
Sifflait au Vélodrome, et il y a ces retrouvailles avec le PSG, donc en novembre, ce fameux match où donc c'est Sylvain Armand qui vous découpe complètement lors de PSG Marseille.
C'est pas très malin de Sylvain, surtout que c'était pas le plus méchant, tu vois.
Et vous n'avez pas connu à Paris non plus.
Moi, justement, où j'en ai voulu, c'est que Sylvain, je le connaissais aussi. Et justement, Jérôme, c'est ce que tu viens de dire. C'est vraiment pas la personne, tout cas, il avait beaucoup de qualités, mais il avait justement pas cette qualité-là de tacle. Mmh. Il avait beaucoup d'autres qualités et il pouvait jouer, sans justement, faire ce qu'il a fait. Et malheureusement, je pense que, c'est vrai que Sylvain est venu aussi, avec Vahid, donc peut-être qu'il voulait faire plaisir à coach Vahid, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est regrettable, c'est que voilà, il y a un moment où il faut pas oublier, et puis ça sert à rien de faire ce genre de geste, parce que je pense que ça avait déjà pris des proportions dans les médias ou à l'extérieur, et donc c'est pour ça que j'en ai voulu à Sylvain, parce que je sais que justement c'était quelqu'un, en tout cas, il avait beaucoup de qualités, mais pas celle du tacle, donc c'était dommage.
Tu lui as reparlé depuis?
Non,
qu'est-ce qu'il envoie, Fabrice?
Pardon?
Non, pardon, mais il y a même le petit tac là, Sylvain Armand, là, je note.
Il a raison sur les qualités, mais tu l'as jamais reparlé depuis?
Malheureusement, on s'est jamais revu. Pourtant, on dit qu'il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, mais on s'est jamais revu. Mais je sais pas, peut-être qu'au bout de 20 ans, il reconnaîtra son erreur. Moi, c'est vrai que je lui en ai voulu et je lui en veux encore, pas encore, parce qu'au bout de 20 ans, ça serait quand même idiot d'en vouloir encore à quelqu'un. Donc, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé à mon sujet et qui ont raconté tout et n'importe quoi. Et là, j'ai essayé de la faire courte, mais la vérité, elle s'est passée exactement comme ça. Il y a eu aucune préméditation. J'ai jamais voulu partir parce que je venais de re-signer 4 ans. Sauf qu'on m'a fait comprendre parce que j'avais refusé d'être la taupe du club. Qu'il fallait que je m'en aille. Mmh. Et puis, concours de circonstances, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est vrai que j'avais eu la chance de faire une saison honorable. Et donc, j'avais comme club à l'époque Nice, Sochaux, chaud parce que c'était comment il s'appelle, Guy Lacombe, que Lacombe j'avais eu à l'époque à Guingamp, qui m'a appelé et qui voulait que j'aille à Sochaux. Mais bon, moi, c'est vrai que Marseille, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que moi, je suis né en 75 et moi, j'ai vécu avec l'épopée avec, Chris Waddell, Jean-Pierre Papin, Carlos Moser, voilà, et Pascal Olmeta.
Et aussi, c'est bien, t'as rétabli ta vérité et merci. T'es bienvenu quand tu veux dans l'émission parce que franchement, t'es très bon.
Tu es où là, Fio? Tu es où?
Non, je suis dans le sud. Je suis dans le Var, mon Pascal.
T'es dans le Var. Écoute, tu vois.
Mais des fois, je viens en Corse, mais faudrait que je t'appelle. Je vais vers Calaros.
Bon. Ah bah oui, appelle-moi Fiofio.
Bon, si tu veux en parler de foot, tu viens quand tu veux. En tout cas, t'es le bienvenu.
Il faisait tomber toutes les gonzesses à Lyon, Fiofio. C'est le mannequin de Lyon. Le mannequin, Fiofio.
Merci beaucoup Fabrice.
Bon, merci Fabrice.
À bientôt,
je t'embrasse.
Ah ouais. À bientôt, bisous à tous.
Salut gamin.
Dis donc, il envoie. J'ai l'impression d'avoir Jérôme.
Ouais, il est bon.
Incroyable. Mais on remercie Fabrice Thurès, donc. Et comme je vous l'ai dit,
tous les faux culs qui est trouvé dans le foot.
Voilà, c'est incroyable. En vrai, il est ratiboisé tout le monde. En tout cas, sachez, si vous êtes supporter de l'OM, si vous vivez à Marseille, on a deux places tout de suite pour OM-PSG. Ça se joue au 32-16. Donc allez-y, appelez 32-16 et le premier arrivé aura les deux places. Dans une seconde, le quiz. Le grand chelem en cours pour Jérôme. À tout de suite.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Il est en grande forme.
Oui. Mini enceinte intelligente Google Nest a gagné, soit pour Nicolas, soit pour Alexandre.
Salut Nico, salut Alex.
Bonsoir.
Nicolas, équipe Rotten ou reste du monde?
Avec Rotten.
Allez, très bien. Allez Nico.
Je vous presse un peu parce que c'était la folie avec Fabrice.
Il y a le Portugais qui est dans la pièce, tout la ferme.
Il dit rien.
Ouais, question flash. Ouais. Question flash. Contre qui joue l'Angleterre ce soir?
Belgique.
Bien sûr.
C'est un point. On rappelle que Jérôme est en route pour un grand chelem.
Il met chaud.
On va faire un kick et cultivé, donc ça risque de prendre les 5 prochaines minutes.
Quelle est la pièce de Sophocle préférée des supporters de Saint-Étienne?
Antigone.
Oh là 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 là, Antigone. Respect. Alors là. Antigone. Alors là bravo.
Antigone.
Voilà. Ah, c'est fort.
C'est pas Jean-Anouille.
Et il est d'abord, c'est Sophocle.
Je croyais qu'il allait dire Octogone, moi, mais bon.
Il y a Don Juan. Jean-Anouille dans mon livre.
Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a eu. C'est comme Don Juan. Don Juan, il y a eu plusieurs.
J'ai pas de culture.
Et oui, d'accord.
2-1 pour nous. Allez, j'ai mis
un. Non, un partout. Qui est l'intrus? Antigone, il m'a soufflé, là. Merci.
Il t'a soufflé, a peut-être soufflé.
Bon, vas-y, oui. Qui est l'intrus? Arménie, Turquie, Macédoine du Nord, Grèce.
Grèce?
Pourquoi? Non.
Parce qu'ils ont été champions d'Europe.
L'Arménie a jamais fait l'euro.
L'homme de Magdebourg est en très grande forme.
Mais qu'est-ce mais tu l'as donné les réponses.
Ah non, je jure que non. Attention, Kikawagi ici.
Parlez de Kanto.
Mais la Grèce a été championne d'Europe et les autres jamais.
Oui, mais c'est pas ça. C'était pas celui-là cette fois. Voilà, mais c'est gentil.
Après, c'était pas ta réponse, quoi.
C'était la tienne. C'était bien.
Vas-y.
Toujours 0-0.
Kikawagi ici. Qui cahouège ici? Saint-Étienne, Olympique de Marseille. Voilà. Saint-Étienne.
Carlos Bosquet, Beretta.
Alors, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué à Arsenal, Aubameyang, il n'a pas joué à Dortmund.
Carlos Bosquet, Beretta.
Non. Je vais vous donner un indice.
Castaneda.
Castaneda,
tu l'as bien sorti.
Jean Castaneda.
On embrasse Kanto.
Les autres aussi, ils ont joué à Saint-Étienne et à Marseille.
Mais c'était pas la réponse, encore une fois.
Il est extraordinaire, lui. Il est fabuleux.
Il pose des questions, il y a 10 réponses.
Oui, c'est vrai que bon.
C'est quand même. Quel joueur, là, il y en a qu'une. Quel joueur de l'équipe de France de 1990 se protégeait bien des droites et des crochets?
Rémi Garde,
bonne réponse de l'homme de Magdebourg. Là, ça commence à être dangereux. Là, il va falloir une question à 2 points. Là.
Non, mais c'est pas possible.
Question à 2 points.
Les 3-2 pour le reste du monde.
Il est bidon toute l'année. Tu lui as donné le quiz, c'est pas possible.
Mais je ne fais jamais.
Là, il y a une triche.
À qui tu parles comme ça, triche avérée.
Question à 2 points.
Tu vas voir la bague du 92 quand tu vas venir sur Paris, toi.
C'est chaud de partout.
Ouais, tu vas moins rigoler.
Qui a quoi dans le dos? Question à 2 points.
Il n'y a que 3-2 reste.
Je prends un joker.
Quoi?
Il a un joker. Et le joker, c'est.
c'est Matteo Guendouzi.
Voilà, je peux pas, parce et que voilà, voilà, je comprends voilà, pas les questions, voilà, alors voilà, je peux pas faire la réponse, voilà. Voilà quoi.
Bon, mais c'est Jean-Louis qui va faire, voilà.
Ça
va,
voilà.
On ne parle pas sur les jingles, Jean-Michel.
Voilà ou pas?
Oui, voilà.
Voilà, voilà.
Pour l'Euro 92.
Oh, mais c'est Pascal, arrête, putain, franchement. Ah. Il y est, Pascal.
Eh oui.
Mais non. Mais non, non, non.
Moi, je m'en souviens. Je me souviens très bien de cette compète. Il n'y avait pas Pascal. Quel international français de, 1900, de l'Euro 92 jouait. Non, c'est pas ça. Pour l'Euro 92, en numéro 4.
Casoli.
Boli.
Sosé,
Blanc.
Sosé,
Deschamps.
Petit. Bonne voilà, réponse voilà. De Jean-Louis Tour.
Voilà, voilà.
Voilà, voilà, petit. Manu Petit jouait au numéro 4. 4.
3
vois, s'il avait été dans l'équipe, il s'en serait souvenu quand même. Qui que c'est-il? Quel joueur français de l'Euro 92?
Oh,
ouais. Il y était, Pascal.
Non, arrêtez avec ça, le pauvre.
Il aurait bien aimé. Quel français de l'Euro 92?
J'y étais au tête de 400
à Rat. Mais non, mais
et après, il y était de la Ligue des Champions.
Mais non, il avait vu la séance de péno de Paris, le sélectionneur.
Allez, vas-y, vas-y.
Allez, quel joueur français de l'Euro 92 n'avait pas la même garde que Rémi, pour le coup, vu son œil.
Coquard.
Le Borgne.
Le Borgne. Le Borgne. Le Borgne. Coquard.
Coquard.
Partout.
Balle de match.
Balle de match.
Ah, je prends le Joker.
Ben non, non.
Si, il peut.
C'est une question, c'est abusé.
Ah, oh, mais mon vieil, c'est abusé, c'est gros.
Ah, bon, c'est
ouais, il peut prendre le Joker. Ouais. Effectivement, il prend le Joker.
Allez, oui,
il a un deuxième Joker. Et c'est Paulo Breitner.
Non, c'est pas le temps, ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas que ça fout. Moi. Moi, c'est pas les quiz, moi. Moi, c'est aux échecs, moi. Moi, c'est aux échecs. C'est aux échecs. Moi, c'est pas les quiz.
Bon, bah alors, c'est Jean-Louis qui va faire Paulo. Mm-hmm.
Attention, on est toujours pour le grand chelem. Balle de match. Ouais. Quel joueur de l'Euro 2004.
Ça va, là ah, bah, et t'as fait tes questions sur l'Euro 2012. Jouer 92.
En Serie A, mais pas à la Juve.
D'accord.
Bonne réponse, yes. Jérôme Bretagne.
Et victoire de Nicolas qui remporte la mise en scène. Et Jérôme en route pour un grand chelem. Rendez-vous demain, donc 19h45, pour suivre ça dans une seconde. L'after live spécial France-Chili au Vélodrome. Et puis ce soir, on connaîtra le troisième adversaire de l'équipe de France pour l'Euro. En plus des Pays-Bas et de l'Autriche, ce sera le vainqueur de Pologne, Pays de Galles. Donc restez bien là. L'after live avec Nico Vidas, Oussem Loussaïef arrive tout de suite.
Allez, merci Jean-Louis. Merci à Jean-Michel. Merci à Pascal. Et on embrasse Tony. Hein. J'espère qu'il a été libéré. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour Rotten sans flamme qui s'arrête jamais tout au long de la semaine de 18h à 20h demain. Grande émission, on va dire briefer bien sûr le match de l'équipe de France ce soir contre le Chili. Restez à l'écoute d'RMC et à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.